On va essayer de réfléchir un petit peu sur ce thème qui est pas simple, mais comme vous êtes des gens intelligents, a priori, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, ça tombe avec la paracha de la semaine, comme ça vous fera un devoir Torah si vous voulez parler pendant 1 h 30 à table, Shabbat. C'est ce qui est marqué au début de la paracha de Toldot qu'on va lire. Veitrotsetsu, Abanim Bekirba. Ils sont remués, les enfants, en son sein, en elle-même. C'est-à-dire que quand elle portait les enfants, Rivka, ça bougeait à l'intérieur. Vatoma, elle a dit, Imken, Lamazé, Anochi. Si c'est comme ça, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? C'est-à-dire, pourquoi cet événement bizarre? Après, c'est marqué, Vatelech, Lidrosh et Hachem. Elle a été pour interroger le Chacham, le prophète, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait en elle. Elle dit, qu'est-ce qui se passait en elle? Alors là-bas, Rachid explique. Il a chaud de Ritsa. C'est quoi, Vaitrotsetsu? C'est un langage de Ritsa, de course. Il dit pourquoi? Keshaïta, Overet, Al Pitre, Torah, lorsqu'elle passait devant des portes de synagogue ou de centre d'études, alors, Shel Shem Ve'ever, de Shem Ve'ever, c'est marqué Yaakov, Ratz. Alors, le Yaakov, parce qu'elle portait des jumeaux en elle, elle portait Esav et Yaakov. Yaakov, il bougeait à ce moment-là vers le centre d'études. Par contre, lorsqu'elle passait devant les portes de Avodah Zara, alors Esav, c'est lui qui se mettait à bouger. Chacun, il sent, une femme, elle sent quand le bébé, il bouge. Alors maintenant, elle, quand elle passait devant les endroits de Torah, le bébé il bougeait. Et quand elle passait devant la Avodah Zara, le bébé il bougeait. Donc elle a un problème maintenant. Pourquoi? Pourquoi elle a un problème? Bah, parce que s'il bouge tout le temps devant la synagogue, elle dit c'est bien, j'ai un petit tzadik dans le ventre. S'il bouge tout le temps devant la maison de Didol, elle dit bon, on va s'arranger, j'ai un enfant qui est un peu bizarre, mais je vais m'arranger avec lui. Mais lui, il bougeait devant les deux. Donc elle s'est affolée, elle s'est paniquée. C'est que déjà, c'est un grand enseignement que c'est plus dangereux quelqu'un qui est des deux côtés que quelqu'un qui est ou d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il n'a pas encore choisi. Deuxième enseignement. Après, elle est venue, le prophète, il lui a dit, sache que tu as des jumeaux. Oh, elle s'est calmée. Ça lui a fait du bien. Elle a dit, ah, ça va. Donc ça veut dire que j'en ai un qui est complètement droit et un qui est complètement tordu. Ça lui a fait du bien. Oui. Encore une fois, ça confirme que c'est compliqué, quelqu'un qui est double. Quelqu'un qui est à la yeshiva et qui va aller voir des films dégoûtants, ou quelqu'un qui fait de la mafia et que la nuit il étudie la Kabbalah, tu dis, on sait plus qui il est un peu bizarre. C'est des gens dangereux. Mais en tout cas, ici, ce qui est marqué, c'est que déjà, à l'intérieur du ventre de leur mère, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore nés, ouais, ils n'avaient pas encore le libre arbitre, ils n'avaient pas encore le choix, et déjà, ils avaient une tendance. Donc ça, ça sera compliqué à comprendre. Ça peut être quoi la tendance qui peut être donnée à quelqu'un déjà avant qu'il vienne au monde? Mais ça, on va encore, ça serait par rapport à la religiosité. Après, il y a une autre référence. C'est marqué dans la Gemara, dans Nida d'Avtet Zayin. Darash Rabbi Chanina Bar Papa. Il a expliqué Rabbi Chanina Bar Papa. Oto Malach Amemune El Aïrayon. On a déjà rapporté plusieurs fois cette référence, mais ça vaut le coup d'y réfléchir à nouveau. Au moment où les parents conçoivent l'enfant. Des parents, ils se marient, ils sont ensemble, ils ont une relation. Au moment où ils ont la relation, quand la semence de l'homme, elle retrouve la semence de la femme, à ce moment-là, il y a un ange, oui, qui s'appelle Laïla, qui s'appelle la nuit, bon, à Mémouné, qui est nommé pour la grossesse, qui prend cette semence, et qui l'amène devant Hachem, et qui dit, Tipazo Mate Aléa, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va être? Alors, il dit, est-ce qu'il va être Achir, est-ce qu'il va être Ani, est-ce qu'il va être riche, est-ce qu'il va être pauvre, est-ce qu'il va être Racham, est-ce qu'il va être Tipesh, est-ce qu'il va être intelligent, est-ce qu'il va être bête? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Tout est fixé à ce moment-là. La femme qu'il va épouser, la maison qu'il va avoir, donc les enfants qui vont naître. À ce moment-là, tout est fixé. C'est-à-dire au moment même où les parents y conçoivent, au moment même où la semence, et on a expliqué déjà plusieurs fois, que la semence, elle est constituée de la pensée de la personne. Et la pensée de la personne, c'est plus profond que ce qui lui passe par la tête. La pensée, c'est ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. C'est sa définition génétique. Maintenant, de la même manière qu'il y a une définition génétique physique, il y a une définition génétique psychologique, il y a aussi une définition génétique nishmatique. Une définition génétique spirituelle. Elle est inscrite à l'intérieur de la personne. Maintenant, le problème, c'est que chaque personne est plurielle. Nous avons des facettes. Donc, l'homme, il est pluriel, la femme est plurielle. Et en plus, au fur et à mesure que la vie, elle passe, on change. Donc le nombre de combinaisons possibles entre deux personnes, il est infini. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants, ils viennent tous des mêmes parents, et pourtant ils sont tous différents. Mais quand même à l'intérieur, tu vas retrouver des facettes de toi et des facettes de ton mari. C'est comme ça. Je veux dire, ça c'est moi, si t'es honnête. Ça c'est mon entêtement, ça. Ça c'est ma panique, ça. L'autre, il va dire, non, ça, c'est ma perte de moyens. Ça, c'est mon manque de confiance en moi. Chacun, il va reconnaître. Ça, c'est l'aspect psychologique, comme l'aspect physique. Tu dis, ah, il a mon nez, celui-là, il a mon menton. Tu vois bien qu'il y a des choses qui passent. Donc, cette logique-là, elle veut dire qu'à ce moment-là, un instant précis qui dure peut-être une seconde, au moment où les semences, elles se rencontrent. Oui. Pour ça que dans la Torah, il y a des lois, il y a des préparations au mariage, et comment est-ce qu'on doit être dans le lit, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, à quoi on doit penser, pourquoi? Parce que ça a des conséquences, déjà. Ah, écoute, laisse-moi tranquille. Ça, c'est ce que tu peux gagner au niveau de l'inné. Qu'est-ce que tu peux donner à l'enfant avant qu'il naisse? Après, il y aura l'éducation, il y aura le foyer, il y aura l'amour, il y aura l'intelligence, il y aura les erreurs, il y aura les circonstances, il y aura les rencontres, il y aura beaucoup de choses après. Mais on parle déjà avant. Qu'est-ce que tu peux faire en avant? Et là aussi, ça a l'air d'être quelque chose qui est inné, quelque chose qui est fixé à l'intérieur de la personne. Maintenant, on avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut fixer ça à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? On peut faire ça avant. Ça veut dire que l'homme et la femme, en vérité, c'est un point de rencontre. Le point de rencontre entre différents aspects de la même personne. Et ça s'inscrit à l'intérieur de la personne, tout ce qu'elle va devoir faire, tout ce qu'elle va devoir rencontrer en fonction de la mission qu'on lui a proposée. Maintenant, cette mission, elle est choisie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand l'homme et la femme ils vont être ensemble, le corps physique il va être déterminé comme une espèce de récipient. En fonction du corps physique, en fonction de la mission que Hachem il a pour la Neshama, il va donner automatiquement les personnes qu'il doit rencontrer. Vous voyez, les moyens qui seront nécessaires, les capacités intellectuelles, les capacités émotives, tout ça en fonction du projet, en fonction de la mission. Comme toi, celui-là, il va être chef de mission, bah, tu vas lui donner tel et tel et tel outil. Celui-là, il va être là pour balayer, tu vas lui donner un balai et une blouse, c'est tout. En fonction de la mission, on donne les moyens. Maintenant, la mission, elle est déterminée en fonction de la Neshama. Et la Neshama, le choix de la Neshama, elle est déterminée à ce moment-là. Ça veut dire que la Neshama qui va être à l'intérieur du corps, elle dépend du niveau de connexion qui existe entre l'homme et la femme, au niveau de l'amour qui existe entre eux, la communication, la pureté, l'ambition qu'ils ont aussi les deux. Oui, parce que si c'est juste pour se conduire comme des animaux, c'est pas la peine qu'on leur envoie Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont pas gérer. On va leur envoyer un petit animal, un petit bœuf. Oui. S'ils ont des grandes ambitions, on va leur envoyer autre chose. Si des gens qui sont profonds, on va leur envoyer quelqu'un de plus profond. Parce qu'ils sauront gérer quelqu'un de profond. On va pas envoyer un prix Nobel de mathématiques à des paysans. Ils vont même pas comprendre à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de faire des logarithmes sur un tronc d'arbre. Ils comprennent pas. On va envoyer. Ceux-là, c'est des grandes sensibilités musiciennes. Alors, leurs enfants, ils sont portés sur ça. Maintenant, ceux-là, à 6 ans et demi, il comprend la Kabbalah. Son fils, à 4 ans et demi, il lit le Chumash. Ça veut dire que les choses, elles sont portées par des directions que l'on donne. Et dans chaque chose, c'est pareil. Comme le contraire aussi, malheureusement, quelqu'un qui est un hypersensible, il va gérer ça. Ouais. Et maintenant, ils ont déterminé que quand les parents, ils ont pris de la drogue, alors les enfants, eux, ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes la soif de la drogue. D'accord? Quand quelqu'un, il a subi des traumatismes, ça se transmet aussi. Ça veut dire que les choses, elles sont inscrites génétiquement. Puisque je les ai vécues, elles rentrent dans ma définition. Ma définition, elle rentre dans mon sang. Mon sang, il a la même nature que ma semence. Ma semence, elle me définit. Donc, ce qui passe dans ma semence, ça vient de moi. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est que la semence, à un instant précis, c'est toute ma personne. Tout ce que je contiens, toute ma personne. Maintenant, le problème, c'est que ma personne à moi, elle n'est pas qu'une personne. On voudrait bien, nous, être qu'une personne. Mais en vérité, on n'est pas qu'une personne. Aussi, on est aussi un maillon d'une chaîne. On vient de quelque part, on va quelque part. Ça, c'est déjà par rapport à notre famille. Mais même par rapport à notre existence, qu'on le veuille ou non, là où on a une influence. On est le mari, on est la femme de quelqu'un, on est le voisin de quelqu'un, on est l'ami de quelqu'un, on est l'ennemi de quelqu'un, on est la belle-mère de quelqu'un. On est le beau-père de quelqu'un, on est le patron de quelqu'un, on est le rabbe de quelqu'un, on est l'élève de quelqu'un. Maintenant, toutes ces rencontres-là, qui ne sont pas fortuites, qui sont nécessaires, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'une précision pour celui qui sait ouvrir les yeux. La semaine dernière, j'ai rentré de Tel Aviv. Alors, il y a un monsieur qui me voit. Ah, vous êtes le Rav Ben Chetri? Bon. Alors, on parle 2 minutes. Maintenant, on rentre dans l'avion. Quand on rentre dans l'avion, j'ai vu qu'il s'est assis à son siège. Il a mis son ticket de la carte d'embarquement. Il l'a mis dans cette poche arrière, droite. Et lui, maintenant, il s'est mis dans cette place-là. Mais en vérité, sa place, elle était ailleurs. Alors, la femme de la steward, avant de démarrer, elle a un problème de place. Elle demande le carton. Alors, il demande le carton. Lui, il s'affole, il panique. il cherche là, il cherche là, il ouvre son sac, et le vol, il doit décoller. On vous attend, monsieur, l'archouma, il est devant tout le monde. Alors moi, je me lève, je dis, excusez-moi, votre carton, il est dans la poche arrière droite. Et lui, il regarde, il trouve le carton, il croit que j'étais un prophète. Il me dit, mais comment? J'ai dit, non, moi, je l'ai vu qui débordait de votre poche. Et moi, dans ma tête à moi, je pense que je ne vois jamais rien pour rien. Donc j'ai collecté cette information, j'ai dit, peut-être elle va servir. Eh bien, elle a servi. Vous avez compris ou non? Peut-être qu'elle aurait servi à rien. Peut-être qu'elle aurait servi à ça. C'est comme ça. Eh bien, si tu comprends ça, ça veut dire qu'un carton qui dépasse d'une poche, qui est d'un niveau aléatoire énorme, parce que l'autre, il aurait pu l'enfoncer un peu plus, il fallait que tu le vois, parce que tu vas rendre service à cette personne-là. Tu sais pas, maintenant celui-là, il est trésorier du consistoire. Peut-être qu'un jour, il va dire, on va organiser des conférences. Tu sais pas ce qui va se passer dans la vie. Mais il a remarqué que tu as quelque chose à lui donner. Et lui, là, il est à ta portée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il fait comme ça, il fait des croisements. Il fait des croisements. Oui. Et ça, si encore une fois, quelqu'un, il a les yeux bien ouverts. Et maintenant, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a un niveau absolu, d'accord, de toute la réalité du monde. Après, il y a un niveau relatif à chacun. Et après, dans le niveau relatif, il y a des croisements qui se font. Les gens que tu as rencontrés, les gens avec qui tu as grandi, les gens qui t'ont fait du bien, les gens qui t'ont fait du mal, les gens qui t'ont fait évoluer, les gens qui t'ont enfoncé, les gens qui t'ont fait des tentations pour te faire plonger, les gens qui t'ont aidé à grandir, par le contraire, en te montrant leurs erreurs, ils t'ont appris à grandir. Mais tout ça, c'est d'une précision incroyable. Encore une fois, ça va dépendre toujours du même principe. Est-ce qu'il y a un projet ou est-ce qu'il n'y a pas de projet? S'il n'y a pas de projet, tu peux tomber dans l'éphémère, tu peux tomber dans l'aléatoire, tu peux avoir cette notion-là que quelqu'un, c'est un électron libre, perdu dans l'univers, sans aucune logique. On peut penser comme ça, ouais, et on verra que ça existe aussi. Ou le contraire, on peut penser que la trajectoire, elle est d'une précision, t'es tellement fabuleuse, mais c'est du laser. Les choses, elles tombent. Ta, 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 ta. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors il y a un autre midrash, c'est marqué dans l'Yalkut Shimoni, Anosé Isha Leshem Shamaim, celui qui se marie avec une femme Leshem Shamaim, il se marie vraiment parce que la Torah l'a demandé. Bon là-bas il donne plusieurs exemples, c'est pas celui qui se marie pour l'argent, parce qu'il a les milliardaires, ou il se marie pour la beauté, les valeurs morales, ou il se marie pour le... Oui, selon la raison pour laquelle il se marie. Il dit celui qui se marie Leshem Shamaim, alors c'est marqué, Yotzi Mimeno Banim Shemoshim et Israël. Il va sortir de lui des enfants qui vont sauver Israël. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aussi, c'est de l'inné. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Déjà, la pensée que tu avais dans le mariage, quand tu cherchais la personne que tu veux épouser, qu'est-ce que tu cherchais? Ça veut dire que tu cherches du superficiel ou tu cherches de l'essentiel? Ça veut dire que quelqu'un, il a déjà un inné qui va générer au niveau du choix de la personne et ensuite de l'enfant qui va naître en fonction de quelle était son ambition au départ. Et ça veut dire que toute la vie, c'est des courants. Toute la vie, c'est des courants. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit dans des courants. Alors, pour essayer de schématiser un petit peu, après, on va essayer de comprendre, mes amis, parce que c'est un sujet qui est très, très large. Alors, il y a trois grands axes. Il y a un axe qui s'appelle la trajectoire nishmatique. On va expliquer ce que ça veut dire. Après, il y a un axe qui s'appelle la trajectoire physique et un axe qui s'appelle la trajectoire psychique. Alors, je vous explique. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais. C'est marqué que Hachem, il a dit, vayehi, que le monde soit. Et il a créé toute la masse des molécules qui est nécessaire. Après qu'il a créé cette masse de molécules, il n'a plus rien créé à partir du rien. D'accord? Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué dessus un projet. Et ce projet, il a fait quoi? Il a fait toutes les transformations, toutes les combinaisons moléculaires qui vont créer toutes les matières à venir. Ça veut dire que pour que cette montre, aujourd'hui, elle soit une montre, il fallait qu'il y ait du cuir. Donc il fallait qu'il y ait un animal. Cet animal, il fallait qu'il soit fait avec du carbone, avec de l'eau, avec de l'air, avec de... Ouais. Pour qu'il y ait ce métal, il fallait qu'il y ait un minerai. Pour qu'il y ait ce minerai, il fallait qu'il y ait une pression extraordinaire entre les montagnes pour faire apparaître ce minerai. Tout ça, il fallait le préprogrammer. C'est-à-dire que pour qu'aujourd'hui, en 2012, il y ait une montre devant moi, il fallait que cette montre, elle participe à une trajectoire. C'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer que le monde, il peut se perpétuer si la trajectoire de la particule n'est pas déjà préétablie. Et ça, c'est le plus facile à comprendre au niveau du monde physique. Ça veut dire que la nécessité d'un déterminisme au niveau de la matière, elle est évidente. Plus on avance dans la science et plus on le prouve. Ça veut dire que l'équilibre de la matière, il n'est pas possible de se faire de manière comme ça, inopinée, de manière arbitraire. C'est impossible. Parce que c'est trop compliqué. Notre corps, il est fait de matière, d'accord? On respire de l'air, on mange des sols, il y a des plantes, il y a du bois. Comment ça se fait que ça reste ce que ça reste? Alors, les gens disent, bah, écoutez, c'est de la matière. Non, mais encore une fois, on l'a appris à l'école, rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, si on regarde au niveau de la matière, on peut imaginer qu'on comprend. Si on va un peu plus profond, c'est-à-dire qu'on regarde au niveau de la structure énergétique de la matière, là, ça devient très compliqué. Einstein lui-même, il dit, à l'intérieur de la matière, il y a une espèce de compte à rebours qui fait qu'à un moment ou à un autre, la chose se transforme. Pourquoi le fruit est pourri? Ben, tu peux le voir en deux jours, ouais. Mais le corps, il vieillit, d'accord? Après, tu vois que le bois, il se transforme, que l'arbre, il change, que les choses, elles se font. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est, par exemple, quand vous jetez un sac en plastique dans la poubelle, on vous dit, attention, ça prend 150 ans. Dans 150 ans, ce plastique, il va être dilué à l'intérieur de la masse, oui. Mais il y a des choses qui prennent moins de temps, des choses qui prennent plus de temps. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour que le monde garde un aspect qui soit régulier et qui soit logique, oui. Alors, il y a tellement d'interactions entre les phénomènes, entre les particules, les ions positifs, les ions négatifs, les champs électriques, les champs électromagnétiques, la matière vivante, la matière inerte. Il y a tellement d'interactions que ça ne peut se perpétuer que si ça suit une trajectoire préétablie. Donc, ça veut dire que Hachem, depuis qu'il a dit « Vayehi », il a déjà donné le programme de toutes les transformations de la matière qui vont être nécessaires jusqu'à la fin des temps. Maintenant, quand il a donné le programme de transformation, dans le programme de transformation, il y a aussi que la matière va exister, il y a aussi que la matière va se transformer, il y a aussi que la matière va s'associer. En s'associant, elle va donner un décor. Maintenant, dans cette matière associée, il va y avoir aussi le corps. Donc, le corps, il va s'associer pour venir à un certain moment, dans un certain espace, dans certaines circonstances. Donc, le corps, il va rencontrer la matière. Quand il va rencontrer la matière, ça va créer un événement. L'événement, ça va être une histoire. Oui. Et ça s'appelle la vie. Ça va? C'est-à-dire que nous, on doit avoir en tête, on doit avoir cette croyance, oui, qu'il n'y a pas de hasard et que ma compatibilité avec l'endroit où je me trouve, elle n'est pas par hasard. Tu n'es pas né par hasard quelque part, tu n'es pas attaché à une terre par hasard quelque part. Maintenant, bizarrement, ton corps, il ne réagit pas de la même manière ici, 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 ici. Oui, j'ai posé la question à plein des médecins, des scientifiques, je ne comprends pas, c'est H2O, c'est de l'eau. Il m'a dit oui. Alors je dis pourquoi cette eau ici, elle n'a pas la même propriété qu'ici, ici, 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 ici. Il y a combien? Chaque endroit, l'eau, celle-là, elle est bonne pour les reins, celle-là, elle est bonne pour la tête, celle-là, est bonne pour les yeux, celle-là, elle est bonne pour les calculs, celle-là, elle est bonne pour... C'est bizarre. Pourtant, c'est de l'eau, c'est H2O. C'est de l'eau, ouais. L'air, il n'a pas la même propriété. Là. Là-bas, c'est pour les bronches. Là-bas, c'est pour les problèmes d'asthme. Là-bas, c'est pour les gens qui ont l'air iodé. Là, c'est bizarre. C'est de l'air. Les plantes, elles sont pas les mêmes partout. Il y a des plantes qui vont pas pousser ailleurs, elles poussent ici, elles poussent pas là-bas. C'est-à-dire que la plante, elle adhère avec ce type de terre. Maintenant, si l'air, il est différent, si la plante, elle est différente, et si l'eau, elle est différente, alors pourquoi est-ce que la personne qui est adaptée à cet air, à cette terre et à cette eau, elle serait pas différente? C'est ça le déracinement. Quand quelqu'un, il est déraciné de son pays, c'est ça la difficulté. Tu dis, qu'est-ce que ça change? Je comprends pas, qu'est-ce que ça change? Genre, j'ai changé d'appartement, je vais tomber malade. Alors parce que j'ai quitté le Maroc ou j'ai quitté le Liban, alors qu'ici il y a un chamboulement, il y a une autre approche, il y a un autre vécu et je ne m'adapte pas et il y en a qui se remettent jamais. Comment ça se fait? En vérité, l'idée c'est très simple. C'est que nous, on regarde parce qu'on croit que là il y a des murs et là il y a de l'air. En vérité, l'homogénéité de notre corps dans un espace, comme l'homogénéité de notre corps dans une famille, comme l'homogénéité de notre personne dans un milieu ou dans un système, elle est précise. Elle est précise. C'est pour ça que les gens qui se gourdent de direction, ils souffrent. Parce qu'ils se sentent jamais intégrés. C'est bizarre. T'es pas à ta place. T'es pas à ta place ici. Ouais. Il y a un cheminement. Maintenant, tu peux sortir et ne pas être à ta place. Il y a des gens comme ça, ça leur prend 20 ans, 30 ans pour voir que c'est pas le métier qu'il fallait. Il y en a 10 ans pour voir que c'était pas la femme qu'il fallait. Il y en a 30 ans pour voir que c'est... qu'il fallait qu'ils comprennent qui c'était leurs parents, qu'ils arrêtent d'imaginer que ça aurait pu être ceux qu'ils voulaient et d'accepter qu'ils sont ceux qu'ils sont. Oui, c'est difficile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne déjà, encore une fois, au niveau physique, restez concentré parce que sinon on va se perdre. Au niveau physique, oui, c'est une série de transformations. Et cette série de transformations, elle est préétablie. Maintenant, ce niveau physique, on va dire, c'est comme des récipients. Ouais, comme un corps, c'est un récipient, on va mettre un éphèche. Comme une société, on va mettre un patron. Comme deux clients, un employé, on va mettre une circonstance, il veut faire un business. Ça, c'est comme des wagons. Et les wagons, ils vont se remplir. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ces wagons? Les wagons temporels, ouais, du moment où les wagons physiques du corps de chacun, on va mettre des personnes. Quand est-ce qu'on détermine la personne qu'on va mettre? On a dit, c'est ce qu'a dit la Gemara dans Nida, au moment de la conception. Maintenant, ça dépend du plan nishmatique. Maintenant, on a un deuxième axe. On a dit, on a un axe physique de prédétermination, la particule qui crée la matière. Maintenant, on a un autre plan, c'est le plan nishmatique. C'est-à-dire que Hachem, au départ, c'est marqué dans le Zohar qu'il a pris un ourlet de son manteau, et avec ça, il a fait les Neshamot d'Israël. Un ourlet de son manteau, ça veut dire que c'est une partie très très extérieure à Dieu. Il a fait avec les Neshamot d'Israël. Avant ça, il a fait déjà l'âme de Adam Harishon. Et ensuite, cette âme, elle s'est parcellisée en milliers d'âmes, et encore en centaines de milliers d'âmes, et en millions d'âmes. Maintenant, ces âmes-là, elles ont un travail à faire. Elles ont un tikkun à faire, elles ont une réparation à faire, elles ont une avoda à faire. Chacun appellera ça comme il veut. Mais en tout cas, elles ont une démarche de passer dans ce monde pour ensuite retourner à Hachem. Dans ce travail-là, oui, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait par quelle démarche il faut passer pour que le travail puisse être fait. Comme un professeur, comme un médecin, oui, il voit que tu t'es cassé le pied, il te dit, va falloir faire tel type de rééducation. Ah, ça va faire mal, ça va faire plaisir, c'est une rééducation pour remettre le pied droit. C'est pareil, maintenant, toi, tu es un enfant qui n'a pas les capacités en mathématiques, tu veux le faire à donner un niveau de mathématiques, donc tu sais qu'il va passer 10 ans à faire des mathématiques. Dans ces 10 ans de mathématiques, il va falloir lui apprendre 8263 théorèmes. Pour les intégrer, il va falloir qu'il passe par 683 leçons qui vont être intégrées grâce à 28744 exercices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur, enfin disons le ministre de l'éducation, ouais, qui va charger le professeur de mathématiques d'établir le programme de mathématiques pour les 10 ans à venir. Donc il sait exactement par où tu vas passer. Maintenant, quand lui il sait par où tu vas passer, il sait ce que chaque leçon et chaque exercice va provoquer chez toi dans ton niveau d'accession à une maturité mathématique. Vous m'avez suivi ou non? Il sait très bien que, par exemple, les chiffres vont te permettre l'algèbre. L'algèbre, il va te faire introduire, je sais pas, dans la géométrie. Les deux, ils vont te permettre les fonctions. Les fonctions, ils vont te permettre les équations. Les équations vont te permettre les logarithmes. Tu peux pas passer de 2 plus 2 à logarithme. C'est pas possible, c'est des étapes. Maintenant, de la même manière qu'il y a des niveaux de maturité au niveau mathématique, il y a aussi des niveaux de maturité au niveau langage. Il y a des niveaux de maturité au niveau pensée. Tu vois, les gens dont la tête n'est pas construite, la pensée n'est pas construite, ils disent n'importe quoi, n'importe comment, parce que la démarche n'a pas été suivie. Vous me suivez ou... Ouais. Ça veut dire que les choses, elles sont précises. Des fois, on fait un peu n'importe quoi. Fais-lui un peu de maths, un peu de physique, un peu de chimie. Tu vois, le mec, il est complètement très loin dans sa tête. Pourquoi les choses n'ont pas été posées? Faut y aller doucement, monsieur. Ouais. C'est comme si toi, tu vas chez le maçon, tu dis, allez, alors, elle avance pas cette maison. Monsieur, doucement, on va monter les murs, on va attendre que ça sèche. Après, on vous met le béton, on attend que ça sèche. Après, on va mettre l'enduit, on attend que ça sèche. Après, on la peinture, on attend que ça sèche. Mais pourquoi vous attendez que ça sèche? J'ai pas que ça à faire. Mais monsieur, c'est obligé. C'est obligé. Il faut que ça mûrisse. Il faut que ça mature. Il faut que ça se pose. C'est exactement pareil. La Neshama, elle a un travail à faire. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, lui, son projet, il existe. Mais non, nous, on ne connaît pas le projet. Pourquoi? Parce que nous, malheureusement, on n'est pas du côté de celui qui regarde le projet. On est à l'intérieur du projet, nous. Donc nous, on ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où on va. On ne sait pas dans quel niveau de travail on vient sur cette terre. On ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. C'est-à-dire, on ne sait pas de quel niveau de réincarnation on vient. De quel Neshama on vient. On ne sait pas ce qui s'est passé avant nous. On ne sait pas ce qu'on doit réparer. Oui, c'est ça que la Gemara, elle dit. Quand Moshe il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo. Ça, c'est une question qui est très difficile à comprendre. Pourquoi tu vois des Rechaim qui ont du bien dans le monde et tu vois des Tzadikim qui souffrent? Alors il a répondu, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo. Ouais. Alors il dit, Tzadik ben Racha, Racha ben Tzadik. Et ça veut dire quoi? Alors nous, on croit que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est Tzadik, mais le fils d'un Racha. Ou alors un Racha qui est fils d'un Tzadik. Il dit non. Il dit en vérité, c'est la Torah à Gilgulim, ça. C'est que si quelqu'un dans la vie antérieure, il était Racha, et que dans cette vie-là, il est Tzadik, ça s'appelle Tzadik ben Racha. Maintenant, étant donné que dans la vie antérieure, il a fait des grosses bêtises, donc maintenant, dans cette vie-là, il va falloir qu'il les répare. Donc il aura des difficultés, ça s'appelle Tzadik Veralo. Maintenant, au contraire, quelqu'un dans la vie antérieure, il était Tzadik. Mais dans cette vie-là, il est Racha. Comme il a beaucoup de mérites, et que maintenant, il est en train de tout perdre, il faut qu'on lui donne pour les mérites qu'il a eus. Donc il va avoir du bien, ça fait Racha Vetovlo. D'accord, oui. Donc c'est très très compliqué de savoir. Des fois, tu crois que tu as des mérites. Mais ça vient de quelque part ailleurs. Et ça remonte très très loin. Regardez comment il dit le Ramchal. C'est dans toutes vos notes. Donc vous pouvez aller regarder ce soir. C'est Amoud Kouf Petet. Bon, peut-être que vous allez regarder. Peut-être que non. En tout cas, ça va vous mettre un coup. C'est Kouf Petet. D'accord? Donc c'est marqué ici. Il dit là-bas, regardez bien. Ve omnam klal tikkun abriya chilek oto adon baruchu ben kol aneshamot. La réparation de toute la création, Hachem l'a redistribuée selon toutes les âmes. Hachem asa le rovdo qu'il a créé pour le servir. Les filles machéyada et yot agun l'école l'echad mehem. Selon ce que lui pensait, savait être correct pour chacune d'entre elles. Les filles aïnyan shebara oto, selon le sujet dans lequel il l'a créé. Sheu davar ne'elam me'od me'od, qui est quelque chose d'extrêmement caché. Velo usag mishuk navi venove vechose, est quelque chose qui ne peut même pas être perçu ni par les prophètes, ni par les voyants. Ouais, parce qu'on a vu des niveaux. Moshe Rabbeinu, il disait, ton Gilgul, c'est ça, ta mission sur la terre, c'est ça. On a vu le José Miloublin, on a vu le Harizal. Mais ça, c'est un niveau encore plus haut que même le Harizal, même Moshe Rabbeinu ne connaissait pas. Pourquoi? Ki kol ze nichlal beta'ame akzerot shezacharnu she'em ne'elami minan Ibrahim. Parce que ça fait partie des décrets qui sont cachés des gens qui ont été créés. Velo, Ivadrou, l'anou, et la toldot. Et nous, on ne connaîtra que les conséquences. Kegon, il dit Ashir ou Ani. Quelqu'un, il est riche ou il est pauvre. En vérité, c'est quoi ça? Riche ou pauvre? C'est une conséquence, ouais, du décret qui a été déterminé. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la mission qu'on va donner à quelqu'un, on va lui donner les moyens. D'accord? Si on va lui donner une grosse intelligence, si on va lui demander une petite intelligence, si on va lui donner des moyens d'argent, si on ne va pas lui donner des moyens d'argent, si on va lui donner une grande famille, si on ne va pas lui donner une grande famille. Mais ça, lui, il voit que les conséquences, mais il ne sait pas le pourquoi des choses. Il doit réfléchir, qu'est-ce qu'on veut de lui, qu'est-ce qu'on attend de lui. Il dit, maintenant, ce n'est pas possible que quelqu'un à qui on a donné des grands moyens, c'est pour une petite mission. Ouais. Sauf s'il est là pour, on a dit, pour prendre de ce monde-ci. Ouais. On va voir comment ça fonctionne. Il dit, Aval en anu yodrim sibat adava. Mais nous, on ne connaît pas la cause de la chose. Madoua dafka zechelko beashirut. On ne sait pas pourquoi celui-là il a une part dans la richesse et celui-là une part dans la pauvreté. Venimtsa sheyesh adam sheyagia lo mitzat shoresh inyano. Donc il va se trouver qu'il va y avoir chez un homme que ça va arriver selon la racine de son sujet, c'est-à-dire le but de sa mission sur la terre. Liot mushpa beribu yashpa'a, qui va avoir une influence, qui va recevoir une grande générosité d'Hachem. Et quelqu'un qui recevra moins de moyens. Mais tout ça, ça vient pour finaliser un projet dans le divin. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, lui, ouais, il voit loin, il voit Mashiach. D'accord? Maintenant, Mashiach, c'est quoi? C'est la réalisation de toutes les Neshamot. Maintenant, pour que toutes les Neshamot passent par la réalisation, il va falloir qu'elles passent par des étapes. Maintenant, les étapes, le problème, c'est que c'est des individus. Si c'était une seule personne, ça irait bien. Mais ça peut être plusieurs individus. Et dans chaque individu, la question, elle se repose. Ouais, et on peut recommencer. On peut, comme toi, comme toi à ton niveau individuel, t'as bien éduqué l'enfant, mais il a envie de faire le fou. Ouais, tu l'as bien éduqué, il veut faire le fou. Et l'enfant du fou, il est hyper sérieux. Je comprends. Ouais, l'enfant du fou, au contraire, il a vu son père qui était fou, il a dit, moi, je veux pas être un fou. D'ailleurs, donc le père qui est fou, il comprend pas. Le grand-père qui est normal, il est content que son petit-fils soit normal, parce qu'il a vu que son fils est fou. Mais comment en trois générations, il peut y avoir tellement de changements? Ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est compliqué, c'est que HaKadosh Baruch Hu, il a un plan global, mais l'intervention de chacun, il va rester libre. Et HaKadosh Baruch Hu, il faut qu'il se débrouille avec la liberté qu'il a donnée à chacun pour arriver à la finalité du programme. Vous me suivez ou... Donc maintenant, après, c'est là que ça va se situer, puisqu'on a dit qu'il y a des contingences, il y aura des obligations qui seront logiques, qui seront fixées, et il y aura un degré de liberté à l'intérieur de ça. Maintenant, quand on prend les trois axes, donc on a dit un axe physique, qui est facile à comprendre, d'accord, les molécules, ton âge, ton poids, ton truc, bah, qu'est-ce que tu veux, ça fait de toi, ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement irrationnel. Je vous ai dit déjà plusieurs fois qu'il y a un grand médecin Goy, il a posé la question, il a dit que comment ça se fait que malgré tous les points communs qu'on a pu retrouver entre tous les hommes, que tout le monde a des poumons, tout le monde a un système sanguin, tout le monde a des reins, ouais, comment ça se fait que chacun il a une relation avec la maladie qui est différente? C'est bizarre. Celui-là, il a une grippe, en deux jours, il est mort. Celui-là, ça fait 20 ans qu'il a le sida, il est en pleine forme. Je comprends rien. Ouais, celui-là, ses reins, il supporte pas ça. Celui-là, il absorbe le cholestérol. Celui-là, il le détruit. Celui-là, ses artères, elles se bouchent en 10 jours. Celui-là, il vit avec un taux de graisse énorme. Celui-là, il mange 19 pizzas, il maigrit. Celle-là, boit un verre d'eau, elle prend 6 kilos. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? Mais c'est quoi la nature? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une illusion d'optique de croire qu'on est tous pareils. C'est une illusion d'optique. Ouais, tu crois. Même événement qui est vécu par 4 personnes, il est vécu de 4 manières différentes. 4 manières différentes. Ça veut dire, comment c'est possible? Maintenant, de la même manière qu'au niveau physique, on est tous différents, donc on va avoir une trajectoire propre à nous, mais au niveau psychique aussi. Donc au niveau psychique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, en tant que personne, on va essayer pour simplifier les choses, au niveau de ma conscience, c'est-à-dire que quand moi je nais, d'accord, je me rends compte qu'il se passe quelque chose autour de moi, l'histoire, elle démarre pour moi, d'accord? Après, un peu plus tard, je sais que j'existe. D'accord? Après, un peu plus tard, je me prends en main. Après, un peu plus tard, je fais des projets, je me réalise, je gagne de l'argent, je me marie, je fais des enfants. Ça, c'est ma vie à moi. Maintenant, j'ai bien compris que ma personne à moi, elle s'inscrit dans un schéma beaucoup plus grand, puisque pour pouvoir exister, j'utilise l'aneshama, et l'aneshama, elle n'a rien de personnel. Et le corps, c'est de la viande. La viande, c'est de la matière. La matière, elle va disparaître. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on me prête un corps pendant un certain temps. Et moi, j'utilise en tant que personne une neshama d'un côté, oui, pour développer mon psychique de l'autre côté. Et les trois, ils se rencontrent. Ça veut dire que moi, on me donne un projet, on me dit, sache qu'on t'a donné une capacité extraordinaire, on t'a donné une neshama qui est d'une puissance incroyable, et le but de ta neshama, c'est d'amener à la réparation de la neshama. Maintenant, pour réparer la neshama, tu vas être obligé de développer ton psychique, oui, et d'utiliser les moyens physiques qu'on t'a donnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on va avoir, pour une fois, j'ai expliqué plusieurs fois, que dans la vie, on va avoir beaucoup de choses à faire, mais le but de ce que l'on va faire, c'est ce qu'on va devenir. Maintenant, quand moi je deviens, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je travaille mes midotes, d'accord? Je travaille ma générosité, je travaille mon intelligence, je travaille ma sincérité, je travaille ma confiance, mais qu'est-ce que je fais moi en vérité? Je travaille quoi? Je travaille ma dimension psychique, le nefesh, c'est kochot hanefesh. Mais en vérité, c'est kochot hanefesh. Elles sont que l'habillage de la neshama. Ça veut dire que quand je fais un travail physique, je fais un apprentissage psychique. Ouais. Et l'apprentissage psychique, qu'est-ce qu'il fait? En vérité, il fait un tikkun sur ma neshama. Alors, je vous donne l'idée. Quand je dis, par exemple, tu vas travailler la persévérance. D'accord? Alors, vas-y. Par exemple, je sais pas moi, va faire de la musculation. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais de la musculation? Toi, tu crois que tu fais de la musculation. Alors, tes muscles, ils grossissent. Alors, ton cœur, il devient plus solide. Alors, ton système sanguin, il est plus évident. Ton sang, il est plus fluide. Mais toute cette dimension physique, elle va représenter quoi? Ce que tu vas faire au niveau du psychique. C'est-à-dire, maintenant, tu vas au bout de tes projets. Tu as une détermination plus grande. Tu as un niveau de résistance plus forte. Donc, tu es devenu une personne plus forte. Mais ça n'est encore que l'habillage de ta personnalité nishmatique. C'est-à-dire que toi, en vérité, tu devais régler ça. Parce que peut-être que dans un autre Gilgoul, ton manque de confiance, il a amené que tu as fait telle et telle et telle avéra. Donc maintenant, quand tu vas développer cette force de confiance, ça va te permettre de lutter contre telle et telle et telle avéra. Donc tu as fait le tikkun. Donc le même temps, le tikkun physique, il amène le tikkun psychique, qui amène le tikkun nishmatique. Ça va? Mais tu peux le regarder dans l'autre sens aussi. Que quoi? Que la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage une certaine énergie. Cette énergie, quand elle traverse le psychique, elle s'appelle le ratson, elle s'appelle la volonté. Maintenant, la maîtrise de la volonté dans le corps physique s'appelle la motivation. Et quand je l'amène dans la réalisation, ça s'appelle la détermination. Donc, on a pris dans l'autre sens. D'accord? L'énergie de la neshama, dans le nefesh, qui va arriver dans le corps physique, et là, qui va se réaliser. C'est bon? Ce que j'ai fait, d'accord? Ce que j'ai fait, moi, personnellement. Donc j'ai fait de l'argent, j'ai fondé cette famille, j'ai écrit ce livre, j'ai développé tel business. Ça, c'est ce que j'ai fait physiquement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je suis devenu grâce à ce que j'ai fait? C'est la personne que j'ai travaillé en moi. C'est bon? Maintenant, la personne que j'ai travaillé en moi, ça reste encore des moyens. Et c'est ça toujours le piège. De réussir à développer des choses sans tomber dans le piège du moyen. C'est-à-dire, quel est le but? Maintenant, les gens, ils cherchent. Quel est le but? Alors de se réaliser pleinement, d'avoir un corps sain, de gagner beaucoup d'argent. Oui, alors pousse encore, pousse encore. D'avoir une famille épanouie, ah d'accord, d'être en équilibre avec soi-même, avec la nature. Vas-y, pousse encore, n'aie pas peur, vas-y, pousse, pousse, pousse. Jusqu'où tu vas remonter? Tu vas remonter à la Neshama. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont bien dans leur peau, ils sont mal dans leur tête. Déjà qu'ils sont mal dans leur tête, qui sont bien dans leur tête, ils sont mal dans leur Neshama, parce qu'il manque quelque chose. Mais c'est normal puisqu'on est fait en trois parties. On est fait en trois parties. Disons que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les outils que Akadosh Baruch Hu me donne, ouais, ils sont très puissants, ils sont très précis. Après, ça va dépendre comment je vais les utiliser. Maintenant, étant donné que dans toutes les dimensions, il y aura toujours et de la matière et de la non-matière. De la matière et de la non-matière. Dans le physique, c'est facile à comprendre. Il y a de la matière et de la non-matière. Par exemple, il y a de la matière, dans la matière, il y a de la matière et il y a l'énergie. D'accord? Ce qui est de la non-matière. C'est bon? Maintenant, même dans le psychique, il y a de la matière et de la non-matière. Parce que l'envie de bouffer, ouais, c'est du psychique physique. Mais l'envie de grandir, c'est du psychique spirituel. L'envie de se rapprocher de Dieu, c'est du psychique spirituel. Ouais, et l'envie d'avoir beaucoup d'argent, c'est du psychique physique. Donc même dans le psychique, il y a du matériel et du spirituel. Attention. Même dans la dimension spirituelle, il y a de la matière et de la non-matière. Bah oui. Parce que tu peux avoir de la spiritualité matériel, tu dis je mets le chapeau, je mets la barbe, mais je continue à avoir des films dégueulasses. Je comprends pas, mais t'es bizarre. Je fais la prière, mais j'ai aucune kavana. Le corps, il est dans ça c'est de la matière spirituelle. C'est de la matière spirituelle. Tu fais, mais tu fais pas l'ishma. Tu fais pas les shem shamaim. Tu fais pas. Mais c'est de la matière spirituelle. Ou tu peux faire de la matière, ou tu peux faire de la spirituelle, de la spiritualité spirituelle. Ça, c'est, des fois, tu trouves même des gens qui font de la spiritualité spirituelle, alors qu'ils n'ont pas atteint la spiritualité matérielle. Si vous voulez, c'est qu'ils font des grandes mitzvot, mais ils n'ont pas encore compris l'importance des téfilines. C'est dommage. Moi, je vois des gens, ils me disent, Mira, Ben Chetrit, voilà ce que je fais. Je suis content pour toi, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il te manque une partie. Qu'est-ce que tu aurais fait avec des téfilines? Qu'est-ce que tu aurais fait avec des talits? Des gens, tu vois, des troupes qui ont des mitzvot extraordinaires de Rouhaniout, ouais, ils ont des réflexes de tzadikim, mais qui n'appliquent pas dans le domaine spirituel. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris le spirituel du spirituel, mais ils n'ont pas pris le matériel du spirituel dans le bon côté. Le contraire, des fois, il y a des gens ils prennent le matériel du spirituel, mais ils ne prennent pas le spirituel du spirituel. Ils n'ont pas profité des téfilines pour s'élever dans les téfilines. Ils n'ont pas profité des mikvés pour apprendre la pureté. Ils n'ont pas profité de la Guémara. Ils ont fait de la Guémara pour faire des mathématiques. Ils n'ont pas profité de la Guémara pour apprendre la Yirat Shamayim, c'est dommage. Ils ont quoi trouvé des grands rabbanim? Mais au lieu de profiter des grands rabbanim pour s'élever, ils ont pris les grands rabbanim pour les protéger, comme une mezouza. Tant que je suis à côté de lui, je suis tranquille. Je peux continuer à rester un pauvre type, de toute façon, je sais qu'il m'aime bien, je lui fais des dons, il va me laisser tranquille. Il va me protéger. C'est une mezouza. Mais non, quand t'as la chance de rencontrer un tzaddik, c'est pour profiter, pour grandir avec lui. C'est pas pour qu'il te protège. Sinon, t'achètes un gilet pare-balles. C'est idiot. D'ailleurs, tu vois ces gens-là, c'est que le jour où le tzaddik meurt, ils sont restés les mêmes brels qu'il y a 20 ans. Après, il vient te dire, je comprends pas. Encore hier soir, j'étais avec quelqu'un. Cette personne-là, elle me dit, Raviria, pendant 20 ans, depuis, je ne sais pas combien, depuis 1996, j'étais très proche du Rav Bentov. Vous avez entendu parler de lui, Rav Bentov? Oui, il a dit, mais combien j'ai vu des miracles, combien j'ai vu des miracles, combien j'ai vu des miracles. Je suis d'accord. Il me dit, alors voilà, maintenant j'ai tout perdu. Et la parnassa, elle marchait. Là où je mettais ma main, ça marchait. Ça, j'ai fait l'immobilier, j'ai gagné. Je suis d'accord. Je dis, mais au niveau de Tchouva, il me dit, bon, vous savez, c'est pas évident, t'as des tentations, tu as trompé ta femme. Il dit, oui, des dizaines de fois. Ah bon? Je dis, d'accord. Et alors? Il me dit, je sais pas, maintenant, depuis que le tzadik il est mort, le business zéro. Là où je mets la main, ça bloque, le truc, ça marche plus, l'immobilier c'est mort, le truc ça marche plus, ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Je dis, oui, bah, pourquoi? Parce que le tzadik c'était comme un couvercle. Ouais? Maintenant, on a enlevé le couvercle. Qu'est-ce qui reste? Toi et tes mérites, maintenant tes mérites c'est zéro. Plus les avérances que t'as fait. Alors comment je vais faire? Je dis, baba, tu vas faire comme tout le monde, baba. Tu vas faire tout con. Quand tu n'as pas de pull, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu bouges pour te réchauffer. Eh ben, quand tu n'as plus le pull du tzadik, tu fais tchouva. C'est difficile. Quand on est habitué à prendre l'ascenseur, c'est difficile de prendre l'escalier. C'est ça le... Ouais. Donc c'est pareil. Quand Akadosh Baruch Hu, il te donne des opportunités, mais profite. Prends, ouais, prends. Et chaque chose, elle se fait. Combien de fois j'ai vu des gens, ils voulaient divorcer, soi-disant des problèmes de caractère. Je dis, disons que ta femme, elle a un problème, d'accord. Disons que ton mari, elle a un problème. Mais maintenant, là, il y a un truc à régler, là. Hachem, il t'a posé la question. Vas-y, profite. Peut-être tu vas divorcer, mais règle le problème, parce que toi, tu as une part dedans, parce que le bon Dieu, il ne crée pas des liens pour rien. Maintenant, peut-être que tu vas régler ton problème et tu vas divorcer. Peut-être tu vas régler ton problème et tu vas pas divorcer. Mais tu as compris pourquoi tu as rencontré cette personne. Mais si tu dis non, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a laissé 15 ans, deux personnes l'un en face de l'autre pour rien. Avec quatre enfants qui sont nés pour rien. Le voie de garage ou la sortie d'autoroute inopinée, erreur de GPS, il n'y a pas d'erreur. Tu es ici, tu as quelque chose à faire. Je te dis, tes ennemis, c'est choisi. Tes amis, c'est choisi. C'est clair. Ton niveau intellectuel, c'est défini. Tes épreuves, elles se définissent. C'est, tout est clair. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que la personne, elle va accepter? Et là, maintenant, moi, j'ai parlé dans l'absolu. Mais maintenant, il y a tous les problèmes intermédiaires. Ben oui, parce que, un truc débile. Quand vous êtes à côté d'un train et que vous voulez sauter dans le train, ouais, vous laissez, donc il y a le train, il est là. Le train, il commence à démarrer, donc il roule doucement, il roule à 15 à l'heure. Donc vous courez, et quand vous êtes à la même vitesse que le train, vous sautez dans le train. Ça va jusque-là? Voilà. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, et quand le train passe, vous sautez dedans. Personne ne peut faire ça. Tu vas t'éclater la tête contre la paroi. Maintenant, le train, c'est quoi? C'est ta vie. Ouais. Et toi, c'est la personne qui court. Maintenant, il faut que tu cours à la même vitesse que ta vie. Il faut que tu cours à la même vitesse que tes enfants. Il faut que tu cours à la même vitesse que ton business. Il faut que tu cours à la même vitesse que ta hashgaha. Il faut que tu cours. Si tu cours pas à la même vitesse, tu vas rater. Les gens, ils font ça, ils ratent. Moi, je vois les gens. Ils ratent. Moi, ils me racontent leur vie, je dis, mais vous, tout votre couple, c'est une série de rendez-vous manqués. Quand le mari veut faire des efforts, la femme, elle n'est pas là. Quand la femme, elle veut faire des efforts, elle n'est pas là. Quand le type, il a des enfants qui veulent apprendre, il n'est pas conscient qu'il a des tzadikim devant lui. Maintenant qu'ils sont des curés de la religion, il leur dit, il faut faire tes chouvas, mais baba, il faut prendre le train en même temps. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard, pour prendre le train, que même la gare, elle n'existe plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Il arrive comme ça avec ses valises et tout, et... Mais il y avait une gare, il voit un McDonald's, il voit... Il dit, il y avait un McDonald's, il y avait une gare. Il dit, mais monsieur, mais ça fait 8 ans, cette gare, elle a été détruite il y a 8 ans. Il y a des gens comme ça. 5 ans après le divorce, j'avais une femme maléfique. 4 ans après que les enfants ils sont partis, j'aurais dû leur dire, et ouais les gars, les trains ils partent. Même les gares, elles partent. C'est quoi la gare? C'est la Hizdamnout. Et qu'est-ce que c'est la Hizdamnout? C'est la Hashgaha, c'est ça la Hashgaha. C'est ça que je vous il vient, il se présente, bonjour. Question A, réponse A. Bonjour, question B, réponse B. Bonjour, question C. Tu dis, mais question A, où elle est la réponse A? Mais la réponse A, je te l'ai donnée il y a 10 ans, je te l'ai donnée il y a 3 ans, je te l'ai donnée il y a 2 ans. Mais toi, tu dis, mais ça sert à rien, mais c'est une bêtise, mais ça ne me concerne pas, c'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou, mon père il est bête, mon rabbin il invente des choses. Ah, comme tu veux, baba. Mais les réponses, tu les as pas. Quand les questions elles viennent, tu rates la réponse, la question A, tu rates la question B, tu rates la question C, tu te dis, ouais, ça va trop vite, je suis perdu, je comprends plus rien. Mais bah, c'est normal. Déjà à l'école, regarde l'école, comment c'est beau. Déjà les lacunes de l'école, tu les payes. Tu les payes en première, tu les payes au bac, tu les payes. Déjà, alors imagine, si déjà, tu fais un calvahamor, si déjà les lacunes de l'école, tu les payes, alors les lacunes de la vie, comment tu les payes? Ouais? Alors les lacunes de la religion, comment tu les payes? Tu vois bien que les gens, ils payent. Tu payes. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais marier avec une ramala comme ça? C'est les lacunes, baba. Tu n'as pas répondu à la question A, tu n'as pas répondu à la question B, alors on est obligé de te donner la question C, dans un niveau D, parce que tu n'es pas à la hauteur. Après tu dis, oui, mais moi j'ai des aspirations, moi j'ai des appels, moi j'ai des demandes. D'accord, mais il faut les faire, il faut faire ce que tu as à faire. Tu ne le fais pas. Alors, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est exactement pareil. Il y a des milliers de rails comme ça, et il y a le grand contrôleur, il voit que le train il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de fermer ces rails-là. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce train qui est en retard? Il le met sur un autre rail. Ben c'est ça la destinée. Les gens qui ratent le train, le bon Dieu, il est obligé de les envoyer sur d'autres rails. Mais dans les autres rails, il y a d'autres personnes, il y a d'autres circonstances, il y a d'autres épreuves, ça change. Après, ils sont perdus, ils ne comprennent plus rien, mais ça ne correspond pas. Mais il faut garder. C'est ça le chemin. Ça s'appelle la Sam des Rahav. Oui, un homme, il doit avoir des principes, il doit avoir des choses claires, il doit avoir des affirmations. Sinon, comment il peut savoir? Alors après, d'où il vient le malaise? Il vient justement de ce qu'on lui a donné dans son inné, mais qu'il n'arrive pas à réaliser. On a expliqué, ouais. Déjà dans le ventre de sa mère. Déjà dans la neshama qu'on a choisie. Parce qu'il y a des gens, j'ai dit à des gens, j'ai dit, mais toi, t'as un grand malheur. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi? J'ai dit, c'est que t'as une grande neshama. Mais comme t'as un esprit pourri, t'es une grande neshama avec un esprit pourri, alors tu souffres. Parce que quelqu'un qui a un esprit pourri, avec une neshama pourrie, il est bien. Il aboie, il est bien. Mais celui qui a une grande neshama avec un esprit pourri, il meurt, il meurt, il fait des bêtises et il les regrette. Ouais, et des fois le contraire, il va jusqu'au bout, après il dit, c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas entier en lui-même. Il n'a pas emmené les trois dimensions. Il n'a pas emmené la dimension physique, la dimension psychique et la dimension nishmatique en même temps. Vous me suivez ou non? Parce que vous avez compris maintenant. C'est que le présent, le temps présent, l'instant présent, c'est une tranche. C'est une tranche maintenant, voilà, maintenant. C'est trois éléments maintenant. Maintenant, si toi, dans les trois éléments, il y a des décalages, parce que tu n'as pas fait le travail des midotes qu'il fallait, donc il va falloir qu'on te présente quelqu'un qui va t'aider à faire le travail des midotes, donc déjà, tu vas épouser une autre personne. Ouais. Tu n'as pas fait le travail au niveau physique. Je vois des gens, par exemple, ils n'arrivent pas de voir un docteur, un autre docteur, un docteur, un autre docteur, un docteur. Mais le jour où ils vont rencontrer un docteur honnête, il va leur dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez? Ah ben j'ai mal au dos, ah, j'ai des douleurs ici, j'ai des douleurs ici. Je dis, mais vous, il veut dire, vous faites un peu de sport, vous faites attention à ce que vous mangez, vous faites attention à dormir. Il dit non. Ah, qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends du café pour le manque de sommeil, tu prends des vitamines parce que tu manges mal, tu fais des régimes parce que tu manges gras, après tu dis, comme tu dors pas assez, d'accord, alors ton corps il est fatigué, après tu as des douleurs, ou alors comme tu n'as pas d'activité physique, donc ton corps, parce qu'il est devant l'ordinateur, dans la voiture, dans l'ordinateur, dans la voiture, devant l'ordinateur, donc tu commences à avoir des douleurs. Après tu vas chez le kiné, après tu vas chez le masseur, après, mais dis, faites un peu de sport, c'est tout. Faites un peu de sport. Si tu fais un peu de sport et que tu manges équilibré, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que plus tu avances dans l'âge, il faut augmenter un peu le sport. Mais les gens, comme ils ont la paresse de faire le sport, ils vont se faire masser. Mais c'est quoi le massage? C'est la flemme du sport. C'est quoi le régime? C'est la flemme de faire attention à ce que tu manges. Comme j'ai pas fait attention, maintenant je vais faire le régime. Alors les gamins, ouais, je prends 10 kilos, je perds 5 kilos, je prends 12 kilos, je perds 8 kilos. T'en as pas marre le yo-yo? Tu dis quoi alors? C'est-à-dire toute ma vie, eh ben oui, ben c'est comme ça, c'est ta nature. Ouais. Toi, tu dois faire un régime, tu sais que tel niveau de sucrerie, tu peux pas, c'est comme ça. Ah ben pourquoi? Eh ben j'ai envie de faire un kiff, alors ils font ça les gens. Quand ils mangent, après ils regrettent, ils mangent, ils regrettent. Pendant 3 mois, ils boivent un verre d'eau, après ils prennent 6 tablettes de chocolat. Maintenant, comme il existe un régime physique, il existe aussi un régime spirituel. Toi, tu sais que tu as une certaine attirance pour les valeurs morales des gens, surtout des femmes. Donc toi, tu dois faire un régime, tu dois enlever tes lunettes. Tu dois baisser les yeux, c'est comme ça. Tu fais ce régime. Quand toute ma vie, je vais faire le régime, vélo, tatou, rachadé, frère, oui, tu vas le faire. Tu ne veux pas le faire. Tu t'excites, tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvais actes, tu as des tentations. Quand tu vas avec ta femme, tu as des pensées bizarres. La nuit, tu te réveilles, tu as des trucs bizarres. Tout ça, ça vient de quoi? Tu fais ton régime spirituel. Tu dois faire un régime de l'otakuru. Toi, tu as une tendance à mentir. Tu dois faire un régime de émettre. C'est des régimes, toute la vie maintenant. Maintenant, les gens, ils veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent. Après, ils regrettent. Ils font tchouva. Après, ils pleurent. Ils prennent une tréha. Après, ils font tchouva. Après, ils remontent. Mais ils sont obligés. C'est le business. C'est ça le travail. Et voilà, recommence comme l'autre avec son chocolat, lui avec la vérote. Oui, encore là. Il y a un type, il y a 5 ans, il a trompé sa femme. Il est venu, il m'a dit, rappelle, j'ai trompé. Je dis, attends. Il a fait un programme. J'ai fait un programme de nettoyage karcher. Ouais. Je dis, écoute, ta femme, pour l'instant, elle t'a foutu dehors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu écoutes. Travaille. Le cours sur l'yé de Sarah. Fuir la faute. La sainteté. Préserve tes yeux et ton cœur. Aller au bout de ses choix. Le mec, il a fait un programme, 6 mois de thérapie en profondeur pour qu'il enlève la racine de la neshama de l'adultère. Ouais. Il m'a dit, c'est bon. Je dis, c'est bon. La femme, j'ai dit, écoutez, moi, je pense que c'est bon. Ils ont redémarré, ils ont fait un travail de couple, Baruch HaShem, ils ont fait encore 2 enfants. 5 ans après, je reçois un email, il a recommencé. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, je vous en prie, vous m'avez sauvé une fois, sauvez-moi 2 fois. Je dis, je peux pas. J'ai envoyé, je lui dis, tu oublies mon numéro, tu oublies mon mail. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, mais Yahmar, ta femme, la pauvre, je lui ai redonné la confiance, elle a compté sur moi. Et tu lui as remis un cancer. 2 fois un cancer. Tu peux pas, un cancer. La première fois, c'est un accident. La deuxième fois, c'est volontaire. Tu peux pas prendre un bol de cancer. Tu m'as trompé. Tu vas mourir. On peut pas mourir les khatrila. Tu dis, Bédiéved, on va mourir. Tout le monde va mourir. Mais pas les khatrila. Mais comment les gens, ils traitent?
avec les mêmes problèmes. Ah, mais les tentations, ou la soif, elle ne me plaît pas. Encore les mêmes lourdeurs. Et ouais, jusqu'à quand? Mais donne le guet et arrête de nous saouler. Non, il ne veut pas. Il veut garder sa femme et sa maîtresse. Voilà. Et chez Trahil, et l'exotisme. Parce qu'il n'a pas encore choisi. Il n'a pas encore voulu. Il n'a pas décidé. Il n'a pas séparé. C'est ça le problème. Il veut l'argent et il veut l'embrouille. Mais il va gagner de l'argent cachère. Comprenez ou non? Il crée la société, il achète la marchandise, il loue le dépôt, ouais, il remplit, il prend l'assurance, il brûle la marchandise. Combien tu as gagné? 100 000 euros. Bon. Et si tu vends la marchandise, combien tu gagnes? 100 000 euros. Alors pourquoi tu as fait l'embrouille à l'assurance? Il a dit, j'ai pas imaginé autre chose. Il n'a pas pensé qu'il pouvait vendre. C'est compris ou non? Il y a des gens, ils ont la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'il y en a, depuis le mariage, ils commencent à penser au divorce. Elle va me dire ça, je lui dirai ça. Ils préparent les papiers, ils prennent les photos. Je lui dis, mais tu t'es marié il y a 3 jours. Eh ben, tu sais les femmes. Hein. Moi, j'ai vu avec ma mère, il faut faire. Mon père, il m'a bien prévenu. Hein. C'est que le mec, il a la tête déformée déjà depuis le départ. Mais ceux-là, comment ils font pour récupérer cela? Comment ils font? Comprenez ou non? Comment ils font? Comment ils sont sortis des rails? Un rail, deux rails, trois rails, ils déraillent. Comment ils font? Comment ils vont faire? C'est ça le problème. C'est qu'il y a une partie, encore une fois, qui t'est donnée. Et après le problème, c'est que les choses, elles évoluent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes. Et bien, le dosage, c'est quoi? C'est quoi le dosage? C'est toujours savoir qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne, et quelle est la part spirituelle et quelle est la part matérielle. Pourquoi? Parce que plus tu vas baisser la spiritualité, plus tu vas augmenter la matérialité. D'accord? Comme dans un couple. Plus tu baisses l'amour, plus tu augmentes la comparaison. Plus tu augmentes le côté psychologique, plus tu compenses le côté physique. Maintenant, s'il n'y a pas, il n'y a aucun échange, il n'y a pas de solidarité, il n'y a que de la sexualité, c'est dangereux parce que la sexualité, ça évolue. Le corps, il change, mais les appétits restent. Surtout avec les petits cachets bleus. Ouais. Donc maintenant, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il compare. Mais Ahmar, maintenant, il a vieilli. Mais toi aussi, tu as vieilli. Donc maintenant, tu as développé autre chose avec elle. Il y a de la communication, il y a de la solidarité, il y a de la compréhension, il y a de la complicité. C'est différent. Mais toi, tu es resté un animal à quatre pattes. C'est ça ton problème. Tu n'as pas profité du matériel pour créer le spirituel du couple. Vous suivez ou non? C'est pareil dans l'éducation. L'enfant, il est petit. Il est petit maintenant. Tu mets la confiance, tu mets l'investissement, tu mets la douceur, tu mets la gentillesse. Quand il a 16, 17 ans, tu peux échanger, tu peux parler, tu peux grandir. Qu'est-ce que tu as mis toi? La pression. Tu as mis la pression, les nerfs, l'absence et le mépris. Qu'est-ce qui reste? Hypocrisie, embrouille, menteur, traloïde. Je vous dis, c'est très simple l'histoire. L'enfant, quand tu lui fais confiance, il te renvoie la sincérité. Quand tu lui mets la pression, il te renvoie l'hypocrisie. C'est tellement simple que c'est même troublant de vérité. Tu dis, mais c'est dur. C'est dur de faire confiance. Ben, c'est normal puisque tu n'as pas confiance. Ça ne va pas s'arranger. Alors, tu as fait la pression. Comme tu as fait la pression, lui, il a peur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'hypocrite. Parce que c'est la seule manière d'éviter la pression rapidement. Tu dis, mais non, mais il n'avait qu'à faire ce que je demande. Mais pour qu'il fasse ce que tu demandes, il fallait qu'il sente que ça te fait plaisir qu'il évolue. Mais toi, tu voulais du cash, tu ne voulais pas une évolution, tu voulais une réponse tout de suite. Alors automatiquement, tu n'as pas la patience. Donc lui, il n'a pas la patience. Toi, tu n'as pas la patience de laisser grandir et lui, il n'a pas la patience d'évoluer. Alors il va te donner une réponse à deux francs, il va te mentir. Et le pire, c'est qu'il croit même qu'en te mentant, il croit même que tu le crois. Ouais. Et en mentant, il croit même son mensonge à lui. Deuxième niveau de schizophrénie. Il croit, quand il te ment, il croit qu'il dit la vérité. Même pour te faire plaisir. Et pour te faire plaisir. Il te ment pour te faire plaisir. Ça, tu comprends pas? Mais en vérité, c'est quoi ça? C'est un rapport dans la relation que tu avais entre la matérialité et la spiritualité. Des fois, tu lui as donné la matérialité, mais tu lui as pas donné la spiritualité. Mais c'est quoi la spiritualité? C'est la présence, c'est la confiance, c'est le dialogue, c'est la proximité. Tu l'as pas. Tu l'as pas. Il y a l'argent, il y a la maison, il y a le chauffage, il y a l'argent de poche, il y a les vacances. C'est tout. Laisse-moi tranquille. Tu lui as donné la matérialité, mais tu n'as pas développé. Mais c'est pas possible parce que l'enfant, quand il naît, d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de matérialité. Et au fur et à mesure, la matérialité, elle baisse, mais la spiritualité ou la psychologie, elle augmente. Ouais. Mais si toi, tu es resté au même niveau de matérialité, donc l'enfant, il ne peut pas, il peut pas, Il ne peut pas être bien avec une machine à sous. C'est impossible. Un distributeur de billets. T'as compris ou non? Donc c'est quoi? C'est un jeu. C'est un chicoul. C'est un chicoul. Comme l'enfant. Au début, quand tu commences à lui faire, à étudier, au début, tu lui fais les mots, traduction, répète, les mots, traduction. Après, tu commences à faire un petit raisonnement. Après, tu augmentes le raisonnement. Après, tu fais le raisonnement de Rashi. Après, tu fais le raisonnement du Rajba. Après, tu fais le raisonnement de Tosfot. Après, tu fais le raisonnement de Rebecca Baker. Mais il faut qu'il a déjà avalé les mots. Parce que sinon, il va faire un faux pchat dans le Tosfot, un faux pchat dans le Rebecca Baker. C'est-à-dire que, la traduction et la structure, ça, c'est la matérialité du limoud. Et après, la réflexion et la compréhension, c'est la spiritualité du limoud. Donc, dans tous les domaines, il y aura toujours une partie matérielle, une partie spirituelle. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que plus tu vas être dans le matériel, attention, écoutez bien, et plus ton libre-arbitre, il va être bas. Et plus tu vas être dans le spirituel, et plus ton libre-arbitre va être haut. Par exemple, si tu n'as pas fait d'études, et que tu sais faire un travail manuel, ton libre-arbitre, il est limité, parce que tu as appris la pâtisserie. Donc, tu vas être ou pâtissier, ou tu vas être pâtissier. Tu ne vas pas devenir chirurgien, ou ingénieur. Par contre, si toi, tu as fait plus au niveau intellectuel, on va dire le spirituel du travail, donc tu as fait des études générales, et tu as un cerveau qui est plus large, et que tu as fait des mathématiques, de la physique, et tu peux faire ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, donc tu as un libre-arbitre qui est plus large. Donc plus tu es spirituel, plus le libre-arbitre il est grand, plus il y a de matériel, plus le libre-arbitre il est petit. Vous me suivez ou non? C'est pareil maintenant. Si dans ton couple, qu'est-ce qui nous relie? La matérialité. Là où on habite, le corps, la bouffe, l'argent, le décor. C'est limité. Mais si entre-temps, qu'il y avait cette matérialité, on a créé du spirituel entre nous, oui, la confiance, l'amour, la communication, la sensibilité, l'investissement, la relation, la recherche, la discussion. Donc maintenant, même si le matériel il bouge, parce qu'on gagne moins qu'avant, quoi, mais le spirituel il va tenir. Donc c'est toujours pareil, c'est un jeu. Maintenant, nous, maintenant, quand on est en vérité dans le matériel, il y a moins de libre arbitre. Parce que si on a que le physique entre nous, maintenant tu m'as trompé. Tu dis, à quoi tu veux que je m'accroche? Mais si moi je t'aime, je sais qu'on a fait des choses ensemble, on a construit des choses extraordinaires, et maintenant t'as fait une connerie grosse comme toi, t'as été voir la voisine. Mais moi je sais qu'au fond tu m'aimes. Alors je peux construire avec toi parce qu'on a le spirituel qui va rattraper. Mais si on avait que le physique et je vois que tu m'as trompé, alors qu'est-ce qui me reste? Le physique moins le physique, ça fait quoi? 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que plus il y a de matériel, moins il y a de libre arbitre. Plus il y a de spirituel, plus il y a de libre-arbitre. Vous me suivez ou non? Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'en vérité, le matériel, il est entre les mains de qui? Il est entre les mains d'Hachem. Les mains d'Hachem, c'est quoi? C'est le mazal. Maintenant, on a dit que le mazal, c'est quoi? C'est la prédétermination de la matière. Et la matière, elle est prédéterminée. Donc, plus quelqu'un, il est dans la matière, plus il est dans le mazal. Vous me suivez ou non? J'étais trop vite, là, ou...
Ouais.
Ça va? Je reprends? On a dit tout à l'heure que la matière, elle a une trajectoire prédéterminée. Chaque particule, elle sait où elle va. Bon, je vous avais déjà expliqué ça, mais vous vous rappelez l'histoire avec le Hafetz Chaim? Ça vous dit rien? Il faut réviser quand même. Je ne peux pas vous refaire tout le temps les mêmes cours. Bon, toi, tu n'étais jamais là, mais bon, les jours qui étaient là, oui. Alors, je vous explique. Une fois, le Hafetz Chaim, il était avec Rav Elchanan Wasserman. Alors, ils étaient en train de marcher. Et il y avait une guerre. Ils sont tombés sur une embuscade entre les Prussiens et les Pruniers. Bon, une guerre. Et puis, les balles, elles étaient en train de siffler. Chou, 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 chou. Le Rav Elchanan Wasserman, vite, il s'est jeté par terre. Pourquoi? Parce que, bim, comme sakana, en som himalanes. Et le Hafetz Chaim, il marchait comme ça, droit. Et les balles, chou, 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 chou. Alors, le Rav Elchanan, il a dit, rap, baissez-vous, regardez, il y a des balles, baissez-vous, il y a danger. Il dit, quel danger? Il a dit, mais, vous voyez pas, ils sont en train de tirer des balles. Il a répondu une chose incroyable. Il a dit, la balle, elle connaît son destinataire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que ça fait déjà 5772 ans qu'Akadosh Baruch Hu a calculé que ces particules de plomb qui sont passées par toutes ces transformations, elles vont rentrer dans le pistolet, elles vont suivre cette trajectoire, elles vont terminer entre les deux yeux de monsieur. C'est vrai que des fois tu vois des trucs incroyables. Le mec, il était en plein dans le champ de bataille. Ouais. Il y a 94 morts. Tout est en morceaux et lui, il n'a rien. Et l'autre, il est caché au fond de la cave. Ouais. La balle, elle a tapé sur la fenêtre, elle a rebondi sur le poteau, elle a rebondi sur la poubelle, elle est rentrée par la fenêtre du vasistas, elle a rebondi sur une casserole, elle a tapé sur la mezouza, elle est revenue entre les deux yeux. Le mec, il est au fond du placard, il a pris la balle. Couloir de Mazzalo. C'était sans Mazal. Oui, bien sûr, oui. Oui. Non, mais je viens à ça. Mais le Hafetz Chaim, il n'est pas au niveau de Neshmartem. Mais Rav Elchanan, il pensait qu'il était. C'est intéressant. Alors, vous avez entendu la question ou non? C'est écrit dans la Torah. Vous devez vous préserver. Il dit oui, mais le problème c'est quoi? S'il y a des lois, ça c'est une loi qui est donnée par rapport au corps physique. Mais le Hafetz Chaim, lui, il n'est pas dans une logique de corps physique. Lui. C'est par exemple à Yom Kippour. Il faut jeûner, il faut prier. Le Maharal de Prague, il dit les tzadikim, ils vont pas prier à Yom Kippour. Ils continuent à étudier. Parce que Yom Kippour, c'est un tikkun. Tikkun pour qui? Pour les gens qui font des averot. Il n'a pas besoin, il continue à étudier. Je ne sais pas si vous... C'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Ouais, c'est une autre démarche. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de ça? Moi, je vous donner cet exemple pour vous montrer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? La balle, elle connaît son destinataire. C'est-à-dire que cette maison, si tu dois l'avoir, tu vas l'avoir. Arrête de tricher, de mentir, d'embrouiller. Tu l'auras ou tu l'auras pas. Fais ta démarche normale, pose ta candidature, appelle l'agent, dis « je la veux ». Mais non, elle vient ou elle vient pas. Tu dis « non, je vais mentir, je vais tricher, je vais faire une tralouette, je vais appeler tout le monde pour dire qu'elle n'est pas chère, je vais effacer les annonces sur Internet ». Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu triches? Si tu triches, tu vas l'avoir. Mais elle n'est pas dans ton mazal. Une chose qui n'est pas dans ton mazal, elle va avoir que des problèmes. C'est comme si tu prends une pièce de mitrailleuse et tu veux t'en servir pour réparer ta machine à faire des glaces. Ça ne marche pas. À chaque fois que tu appuies sur la glace, il y a une cartouche qui sort. Tu dis que c'est pas adapté. Ouais. C'est le contraire. C'est que c'est pas adapté. Maintenant, le bon Dieu, il fait ça. Il fait ça. Si toi, tu es dans une logique de t'mimout, c'est-à-dire que toi, tu dis, Hachem, il fait ce qu'il a à faire. Ouais. Il dit, maintenant, quand tu t'inscris dans cette logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle, elle sait où elle doit aller. La maison, elle sait où elle doit aller. Ouais. Le chidour, il sait où il doit aller. Toi, tu dois te mettre en situation, tu dois parler avec la personne, tu dois présenter, tu dois éduquer l'enfant, et après on va rencontrer la personne. Tu dis, non, je vais faire un tralouet, je vais appeler Laura, je vais lui mentir, je vais lui dire qu'elle a 34, 32, 31, 8, 3, elle est grande, qu'elle est maigre, après on ne comprend plus rien ce qui se passe. Qu'il arrive, il trouve quelqu'un d'autre, il dit, c'est pas grave, bon, elle n'a pas de jambes, mais elle t'aime beaucoup. Comment tu vas faire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais pas les choses dans la droiture, tu fais pas les choses dans la yashrut. Alors qu'est-ce que tu fais? En fait, tu changes le mazal. Non, tu n'as pas changé le mazal. Au contraire, en voulant changer le mazal, tu es rentré dans un autre mazal. Parce que tu peux avoir un mazal dans la matérialité et tu peux avoir un mazal dans la spiritualité. Maintenant, le problème, c'est que la seule manière d'avoir le mazal dans la spiritualité, c'est de renoncer au mazal dans la matérialité. C'est-à-dire que quand les personnes, inconsciemment, ils refusent le matériel, ils refusent le spirituel, en fait, ils rentrent dans l'ashgaha du non-juif. Parce que le non-juif, il est totalement soumis à la matière. À la matière. Ça veut dire que les choses, elles doivent être ce qu'elles doivent être. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il peut sortir de ça. Mais pour sortir de ça, il faut qu'il se libère. Maintenant, on ne se libère pas avec de l'argent. On ne se libère pas avec des nerfs. On ne se libère pas avec des vitamines illégales. On se libère avec un degré de proximité avec celui qui n'est pas soumis au mazal. Alors, celui qui n'est pas soumis au mazal, c'est Dieu. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la démarche dans la matière, attention, c'est compliqué. Le temps qu'on va vivre, les maladies qu'on va avoir, les choses qu'on va, les gens qu'on va rencontrer, l'argent qu'on va gagner, c'est des choses qui sont fixées. Par rapport à quoi? Par rapport à une prédestination. Maintenant, si quelqu'un, maintenant, il a un projet qui est plus grand que sa prédestination, donc il n'est pas dans le même domaine. Oui, il n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc, puisqu'il n'est pas dans les mêmes circonstances, on ne peut pas lui donner les mêmes moyens. Celui-là, il veut faire vivre sa famille. Donc, il faut qu'on lui donne 3 000 euros. Mais celui-là, il veut s'occuper des 40 yeshivot. Il faut qu'on lui donne 2 millions d'euros. Mais comment on va faire? Il a un mazal. Il a un mazal à 3 000 euros. Comment on va lui donner les 2 millions? Parce qu'il est fou. Parce qu'il les voit grand. Parce qu'il a pris sur lui, il a dit. Toujours, je vous donne cet exemple. La femme qui a construit l'hôpital Hadassah, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas un dollar. Ah, comment elle a fait? Elle a été voir les donateurs. Elle a dit, c'est pas normal qu'il n'y a pas un grand hôpital en Israël. Elle a été voir les donateurs aux États-Unis, en Suisse, en tout, et elle a ramassé. Mais vous savez combien ça coûte un hôpital? Rien qu'un petit appareil de radio, ça coûte 100 000 dollars. Un petit appareil de rien du tout. Un scanner, combien ça coûte un scanner? Mais combien ça coûte l'hôpital? C'est énorme. Comment elle a trouvé des millions et des millions et des dizaines de millions de dollars? Elle a été voir les donateurs. Ah, tu dis, bah, c'est grâce aux donateurs, c'est pas elle. Oui, t'as raison. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est plus dur? De ramasser 30 millions de dollars en 20 ans ou de convaincre quelqu'un de donner 20 millions de dollars en une heure? Parce que tu sais la conviction qu'il faut pour gagner 30 millions de dollars. Et tu sais la conviction qu'il faut pour convaincre quelqu'un de donner 20 millions de dollars. Donc en fin de compte, c'est quoi la vie? C'est de la conviction contre la conviction. Plus de conviction contre moins de conviction. Ta conviction que ton produit il est bon, ouais, contre la conviction du client qui veut garder son argent. Ta conviction que toi, tu es le patron, contre la conviction, le manque de conviction de l'employé qui dit que tu as raison. La conviction que toi, tu es le banquier, comme la conviction que toi, tu es le rave, contre la conviction que l'autre, c'est un élève. C'est toute la vie, c'est que conviction contre conviction. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas la conviction, on est perturbé. Parce qu'on dit, mais il n'est pas à sa place, elle ne fait pas ce qu'elle a à faire. Donc cette logique-là, c'est que la personne, elle s'est levée un matin, elle a dit qu'il faut qu'il y ait un hôpital. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle, elle s'est rentrée dans un mazal de 80 millions de dollars. Qui n'est pas son mazal? Peut-être c'était une femme toute simple qui aurait dû avoir un enfant, deux enfants et son petit mari gentil, tranquillement, là-bas, habiter à Arnov. Elle s'est levée, elle a dit, c'est pas normal. Et vas-y, va voir les riches, prends les contacts. Ni elle parle, ni elle truc, elle s'arrange, et comment, et ça se développe, et ça prend, et les gens ils sont amoureux de son projet, après ils disent on va faire un gala, après on va faire un truc, après on va faire l'association Adassa, après les membres d'honneur, et les traloïdes, sur la base de quoi? Sur la base d'une folle, qui s'est levée un matin, qui a dit, c'est pas normal. C'est ça la force de la conviction, ouais. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? En vérité, elle est sortie de la normale. Comme elle est sortie de la normale, il va lui arriver des choses pas normales. C'est pas normal. C'est pas normal d'arriver à convaincre des milliers de personnes sur un truc que tu t'es levé le matin. Ça, c'est le problème du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit trouver un hôpital, c'est pas toi. Ça, tu te dis, moi, je me substitue au gouvernement. Mais le gouvernement, c'est 500 personnes. Ces 500 personnes, ils représentent 6 millions de personnes. Et toi, tu viens à la place des 6 millions, tu dis, moi, je pense que les 6 millions, ils ont besoin. Et tu le fais. Ça existe? Ça existe. C'est-à-dire que la conviction de la personne qui vaut. Ouais. Comme Moshe Rabbeinu, Shavei Keneged Kulam. Ouais. C'est fort, c'est puissant. Maintenant, quand cette personne-là, maintenant, dans sa mahashava, dans sa pensée, elle a développé, elle a dépassé, ça veut dire les ma'ala minateva, elle n'est plus dans une logique de mazal. Je ne sais pas si vous me suivez. Comment on appelle ça en hébreu? On appelle ça ba'al bechira. Ba'al bechira, ça veut dire des gens qui ont le libre arbitre. Il y a un rahim incroyable. Il dit que les frères de Yosef, ils pouvaient tuer Yosef parce qu'ils sont ba'al bechira. T'as vu ce rahim? C'est comme ça, non? C'est-à-dire que quelqu'un qui est Baal Bechira, c'est-à-dire que le monde en vérité, il se divise en personnes qui sont Baal Bechira et des gens qui ne sont pas Baal Bechira. Les gens qui ne sont pas Baal Bechira, c'est comme de la matière. Maintenant, si tu l'as tué, c'est comme si tu as coupé un arbre, si tu as cassé un rocher en deux. Le rocher, il n'est pas Baal Bechira, il n'a pas de libre arbitre. Maintenant, quand quelqu'un il est rentré dans la dimension du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a les moyens de ne pas être soumis à la trajectoire de la matière, il peut faire des choses qui sont incroyables. Tu dis, mais enfin, c'est pas normal, c'est pas légal. C'est comme les agents secrets, ils n'ont pas les mêmes lois que les policiers. Les agents secrets, ils n'ont pas les mêmes lois que les policiers. Ils te disent, ah ben c'est pour raison d'État. Alors imagine, la raison d'État, au niveau du divin, comment ça fonctionne? Comme il dit le Nefesh HaHaim, il dit les Avot, ils ont fait des choses qui sont interdites par la Torah. Yaakov, il a épousé deux sœurs. Ouais. Alors il répond une chose incroyable. Il dit, après le don de la Torah, on regarde qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Mais avant le don de la Torah, oui, il regarde qu'est-ce qui est bon pour Am Israël, qu'est-ce qui est mauvais pour Am Israël. Maintenant, Yaakov Avinu, il a dit que c'est bon, il a vu que c'était bon pour Am Israël qu'il doit épouser ses deux sœurs. Qui mais c'est assour. Il dit oui, pour nous c'est assour, pour lui non. Il dit mais attendez, c'est un peu facile. Ah ben il faut que tu sois sûr de toi, hein, papa. Rabbi Yeshua, la Gemara raconte, Rabbi Yeshua, il a calculé que ce jour-là c'est Kippour pour lui. Donc il va pas. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit ce jour-là tu vas amener, tu vas venir. Ça s'appelle Bendéa. Quelqu'un, il est Bendéa. Nous, on ne connaît pas ça parce que nous, on se débrouille, on essaie de se débrouiller avec le Shulchan Aruch et le Mishnah Brura. Ouais. Mais eux, ils étaient Bendéa. Ça veut dire qu'ils avaient toute la Torah dans la tête, ils avaient tout le Talmud dans la tête, et ils avaient toutes les Braïtot, ils faisaient Posek Lalaha. Pour eux, ils étaient Posek Lalaha. Donc c'est Bendéa. Tu n'es pas d'accord avec lui, maman, il faut que tu rediscutes avec lui sur tout le Talmud. Donc ce n'est pas avec ton petit Mishnah Brura que tu vas discuter avec lui. Il est Bendéa. Lui, c'est Rabbi Yeshua, il est Bendéa. Il a une Dea. Celui-là, il a un rapport direct avec Hachem, tu vas discuter avec lui.
qui s'appelle Baal Bechira. Il n'est plus dans la logique de l'inné, comme s'il veut ou non. Maintenant, les trois quarts des gens, ils vont se laisser porter par le système, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas envie de l'assumer. Donc ils deviennent, ils sont dans l'inné, ils sont dans le déterminé. Donc ils vont suivre. C'est ce qui est marqué avec, à propos de Pharaon. Quand c'est marqué là-bas que Pharaon, que Vaïchabed et Tlefparo, et que Jvourou, il a endurci le cœur de Pharaon, tous les commentaires, ils posent la question, ils disent, je ne comprends pas. Pourquoi il a été puni, Pharaon? Parce qu'il n'a pas laissé sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ouais. Mais de toute façon, il ne pouvait pas laisser sortir d'Égypte puisqu'il a été condamné, puisque Dieu lui a endurci le cœur. Ça va? Alors il répond en vérité que c'est très simple. Tu as Kadosh Bourou d'abord, il a demandé de laisser sortir. Il n'a pas voulu. Il a demandé deuxième fois, il n'a pas voulu. Troisième fois, il n'a pas voulu. Il a dit, ils vont sortir. Mais maintenant, toi, tu vas les voir sortir, mais tu ne pourras plus rien faire. C'est quoi l'idée? Pharaon, à Kadosh Bourou, il a fixé une histoire. Que les Bnei Israël, ils doivent Avraham, Israël et Yaakov. Après, ils doivent rentrer 70 en Égypte. Après ces 70, ils doivent devenir 15 millions. Maintenant, les 15 millions, on va leur proposer de sortir d'Égypte. Sur les 15 millions, il y en a 3 millions qui décident de sortir. Mais qu'est-ce qu'on a fait en vérité? On a fait un birour. On a fait une sélection. Ouais, pourquoi? Parce que le Zohar, il dit, comment 70 personnes, ils peuvent devenir un peuple? Maintenant, Dieu, il doit donner la Torah à un peuple. Mais 70 personnes, ce n'est pas un peuple. Maintenant, pour que 70 personnes, ils deviennent un peuple, il faut qu'ils restent pendant 210 ans dans un pays, sans se marier avec des autres personnes. Parce que s'ils se marient avec des goïms, il n'y a plus de peuple juif. Maintenant, comment ils ne vont pas se marier avec des peuples juifs, avec d'autres personnes? Parce que les Égyptiens, ils ont la haine des juifs. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que la haine des Égyptiens, ça a permis aux 70 de devenir un peuple. Maintenant, même à l'intérieur de ces 15 millions, il y en avait qui voulaient recevoir la Torah, il y en a qui ne voulaient pas recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les plaies d'Égypte. Dans les plaies d'Égypte, il y en a qui vont dire, j'ai vu la lumière, je veux être proche d'Hachem. Il y en a qui vont dire non. Comme Lot et Abraham. Ouais, Abraham, il a choisi. Lot, il a choisi, on lui a dit, où tu veux la spiritualité, c'est Abraham. Où tu veux la matérialité, c'est Sdom. Il a choisi Sdom. Sa femme, elle a regardé en arrière. Elle a regardé Sdom. Elle est restée morte là-bas. L'autre qui a regardé Abraham, il a avancé. Toute la vie, c'est comme ça. Comme un enfant, tu dis, écoute mon fils, où tu regardes l'avenir, où tu regardes le présent. Ou maintenant tu glandes, tu manges des paquets de bonbons, ou tu regardes l'avenir, tu deviens un ingénieur, c'est comme tu veux. Ou tu regardes Abraham, ou tu regardes Lot. Ouais. Et selon ton choix, tu détermineras quel sera ton lot, ton lot. Ouais. Mais c'est pareil dans la vie. Ouais. Maintenant tu veux une fille sérieuse, tu veux une fille qui travaille, tu veux une fille positive, tu veux une fille intelligente, tu veux une fille spirituelle. Ou non, tu veux une fille qui est belle, mais qui est bête. Et elle va t'embêter, j'ai pas trouvé les bottes que je voulais. Tu dis, mais chérie, la petite est anorexique, elle va dire, je m'en fous, je trouve pas ma jupe. C'est comme tu veux. Ou tu veux quelqu'un de superficiel, ou tu veux quelqu'un d'essentiel. Maintenant, souvent, encore une fois, pour atteindre l'essentiel, renoncer. Il faut renoncer au matériel. Maintenant, le renoncement au matériel, en vérité, il te donne accès au spirituel. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, il va donner le choix à l'homme. Maintenant, Pharaon, lui, on lui a dit, écoute, les Bnei Israël, ils doivent sortir d'Égypte parce qu'ils vont recevoir la Torah. Ça fait 1948 ans qu'on attend ce moment de donner la Torah aux Bnei Israël. Maintenant, toi, tu vas être un partenaire privilégié puisque c'est toi qui vas les faire sortir d'Égypte. Ils vont sortir d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Ils vont aller au Arsina, ils vont recevoir la Torah. Et que tu dis non? Mais tu as le choix. Tu dis non. T'as pas compris? Quand tu dis non, ça ne veut pas dire que les Bnei Israël ne vont pas sortir. Ils vont sortir. Mais sans toi. Parce que vous me suivez. C'est-à-dire que Pharaon, il aurait pu être partenaire du Kiddush Hashem. Il aurait pu être là et dire aux Bnei Israël, Chazako Barour, servez Dieu, bénissez-moi, profitez pour offrir des corbanotes pour moi. Ouais? Non, il a dit, non, vous ne sortirez pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a endurci le cœur. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé figé comme ça. Ouais? Comme les pyramides. Comme les poteaux, comme les murs, comme les arbres. Et les Israël, ils sont sortis. C'est que de toute façon, ils vont sortir. Il n'y a pas très longtemps encore. Voilà qu'un monsieur, il m'a téléphoné. Il m'a dit, ah ben j'ai trite. Mon fils, il a rencontré une fille. Mais nous, on ne veut pas ce mariage. Je dis, mais elle n'est pas sérieuse. Si, elle est sérieuse. Ils ont fait des bêtises. Non, c'est un barreau. Oui, la fille, c'est une fille sérieuse. Ouais, séminaire. Ils sont touchés, rien.
Ils ont fait un chidour, oui. Et alors, ben, on n'est pas d'accord, c'est pas notre style de famille, c'est pas ce qu'on veut pour elle, c'est pas ce qu'on veut pour lui, et on veut pas, et on n'ira pas au mariage. On a appelé les parents, on a appelé la fille, on a appelé la rabbinie, on a mis la pression. Je dis, écoute, tu fais, tu lui parles, tu lui expliques. Mais moi, je lui parle au garçon, je lui parle les 3 heures, je dis, mais il veut pas, il veut cette fille, il veut. Il va se marier avec elle. Non, eh ben, j'irai pas, et je vais tomber malade. Non, mais t'as pas compris, il va se marier. Il va se marier. Toi, t'as tout fait ce que t'as pu. Tu l'as éduqué, tu l'as formé, tu l'as truqué. Et lui, il est bien avec cette fille. Il pense qu'elle est bien. Donc, ou ça va être une mauvaise expérience, il va prendre une dalba dans 2 ans, il va venir, il va dire t'avais raison. Ou il va être très heureux et toi, tu t'es planté parce que peut-être que toi, t'avais d'autres images, tu voulais quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a... Peut-être qu'il n'a pas tes projets à toi, lui, c'est sa vie à lui. Toi, tu veux lui imposer tes choix à toi. Maintenant, attention, maintenant, ils font la guerre pendant 6 mois. 3 semaines avant, ils sortent les cartes parce qu'ils ont l'archoma que genre, les gens ils vont venir. Après, ils commencent à s'énerver pourquoi les gens ne rendent pas la réponse. Et après, ils font une simra de malade. Et après, ils disent, mais quelle fille extraordinaire. Et les beaux-parents, comment ils sont gentils. Comment ça, tout ce travail pour rien. Ça veut dire que toi, ton entêtement, il t'a endurci le cœur. Mais l'histoire, elle va se faire. Mais dommage que tu aurais pu participer dans la simra, alors que tu vas participer dans la ramba. D'accord, oui ou non? Dans tout, c'est pareil maintenant. Toi, tu as tout fait pour sauver la boîte. Maintenant, la boîte, elle va couler. Alors, c'est pas la peine d'en plus que tu coules la boîte, en plus, tu fais un arrêt cardiaque. Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai mis l'argent, j'ai mis les chokhmot, j'ai fait les emprunts, j'ai tout fait. Maintenant, ça se pèse pas, ça se fait pas. C'est pas grave. Dieu est grand. Eh ben, aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Tu dis, non, je vais mourir, je vais me pendre. La honte. Mais t'es fou, quoi. T'as pas... Encore une fois, je répète, l'histoire, elle va se faire. L'histoire, elle va se faire. Maintenant, l'histoire, elle peut se faire avec toi ou contre toi. Si tu veux participer, elle va être avec toi. Si tu ne veux pas participer, elle va se faire, mais contre toi. Elle est déjà comme ça. 69, comme ça. Non. 30 ans, il reste comme ça. 30 ans, il n'appelle pas son fils. J'étais pas d'accord avec cette union. Mais Yarma, t'es jeté. T'es le grand-père. Il a 8 gosses. Ils ne connaissent pas leur grand-père. Pourquoi faire? Les Mahanma. Genre, il va réfléchir, il va comprendre que j'avais raison, il va me demander mes khila. Mais il a 62 ans, ton fils. Il va venir, papa, j'ai réfléchi, il a fait sa vie, papa. Ils vont faire leur vie. C'est que c'est un des grands défauts des enfants, c'est qu'ils grandissent. Vous le savez, ça? Ça, oui? On espère, ouais. Donc, ils grandissent. Mais nous, on vieillit, le temps, il passe, la vie, elle passe. Donc, les choses, elles vont se faire. Donc, après, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'on veut participer à la vie que Dieu nous propose, ouais, ou nous on veut se bloquer sur la vie qu'on aurait voulu? Je dis, hier soir j'étais aussi pour un truc, une conférence, à la fin il y a un type qui m'attrape, il me dit, voilà, Rav, je vous appelais ma flamme, et vous lui dites que je veux qu'elle soit comme ça, c'est comme ça qu'elle doit être, c'est comme ça qu'elle doit être. Je dis, écoute baba, ta femme je la connais, je connais sa sœur, je connais son autre sœur, ils sont mariés avec des élèves à moi. Il y a 20 ans, j'ai vu le caractère de la fille, j'ai dit, ça c'est... Celle-là, elle sera heureuse si elle épouse un cabot. Maintenant, l'autre beau-frère, c'est un cabot. Ils sont très heureux.
Un quoi?
Un cabot.
Qu'est-ce que c'est un cabot?
Un cabot. Non, un cabot, c'est un toutou. Un monsieur toutou. Mets-toi là. Mais si toi, tu veux qu'elle change et elle devienne une femme, mon chéri, mon cœur, tu es le centre de ma vie. Non, tu es pas. Chez eux, c'est les femmes, les hommes. C'est comme ça. C'est... Dans cette famille, les femmes, c'est les hommes. Les hommes, c'est les femmes. C'est comme tu veux. Maintenant, tu peux être très heureux. Il y a des gens qui sont très heureux avec des femmes qui prennent tout en main, qui prennent tout. Et ils sont bien, tout est facile. Bon, tu fais quoi? On a choisi, on part là-bas en vacances, on achète la maison, et lui, il est tranquille. Oui, il faut signer. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens, le contraire, ils veulent tout décider. Tac, 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 avec la femme. Ça dépend des natures. C'est pas grave. Il y en a qui sont heureux comme ça. Moi, au début, moi, je croyais comme ça. Moi, je croyais que l'homme, attends, et la femme. Ben non, il y a des contraires. La femme, elle est comme ça, elle porte le pantalon. C'est elle qui tac, tac, tac. Et le mec, il est content, en vérité. En vérité. C'est bon, il est. Il n'y a aucune décision à prendre. Il vient, il s'assoit, c'est prêt. Le truc, les enfants, ils sont élevés. Lui, il est bien. Il se déchire dans son travail, il est tranquille. En fait, il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui de s'occuper maintenant? Je veux que le pot de fleurs, il soit à droite. Que les gants dans la salle de bain, ils soient posés sur l'étagère de gauche. C'est pas ton problème, ça. Pourquoi tu te mets? Quoi tu te mêles? Eh bien, qu'elle choisisse la voiture. De toute façon, qui c'est qui va conduire? C'est toi qui fais les courses. Qu'elle choisisse la maison. Eh bien, c'est pas loin de l'école. Voilà, c'est bien. Ça lui plaît. Ça va, ça te plaît, chérie? T'es contente? C'est bien.
Il a d'autres projets. Lui, il a son DAF de Guémara et ses 19 millions d'euros à gérer. Ça va, il a de quoi faire. Il n'a pas besoin de se prendre la tête pour savoir si les étagères, elles doivent être marron ou blanche. Non, il veut tout maîtriser. Ça sert à rien. Parce que tu vas le faire au détriment d'autre chose. Ouais. Alors je lui ai dit, toi, tu veux que ta femme, elle soit comme un modèle. Mais ça, c'est valable la veille du chidour. C'est valable 2 mois avant de la connaître. Mais là, ça fait 15 ans que vous êtes mariés, vous avez 6 enfants. Tu veux qu'elle change. Il faudrait peut-être que tu apprends à l'aimer. Ça ira plus vite. C'est difficile. Pourquoi? Parce que je te dis maintenant, t'es dans des rails. C'est des rails. Le mec, il a sauté de l'avion. Il dit, je regrette. Baba, t'as sauté de l'avion. T'as signé. C'est signé, non? T'as signé pour la maison. Tu dis, non, mais attendez, là, je m'excuse. Excuse-moi, les 17 000 euros de loyer, c'est tous les mois? Ah bah oui, c'est un crédit. Donc le crédit, par définition, c'est que vous allez rembourser la somme, bon, de 700 000 euros, vous allez payer 17 000 euros par mois. Ça fait beaucoup quand même. Bah c'est votre signature là, oui. C'est marqué « Lu et approuvé avec vos initiales sur les 74 pages ». Vous avez 74 pages de coma? Non, moi je pensais qu'on paye une fois 17 000, après c'est... Enfin, monsieur, on peut pas acheter un 600 m² à Milan sur Avenue Washington à 17 000 euros. Enfin, vous débarquez de quelle planète? De quelle campagne vous arrivez? Ils ont des enfants, il faut s'occuper des enfants? Oh. Tous les jours? Oh. C'est pas possible. Mais j'ai pas le temps. Mais c'est des enfants, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, elle comprend. Et ça, c'est très, très puissant. Qu'il va y avoir des données déterminées. Il va y avoir des choses fixées. Ouais. Et ça va être inscrit dans l'ADN. Et ça va être inscrit dans l'inné. Et ça va être inscrit dans le masal. Ouais. Et les 3/4 des choses, elles vont se mettre en place. Après, toi, maintenant, est-ce que ça va être autodéterminant ou non? Ça dépend. Si toi, tu t'en tiens à la partie matérielle de la personne entièrement, ça veut dire que toi, tu renonces en fin de compte à la spiritualité. Mais dans la spiritualité, c'est là qu'il n'y a pas de déterminisme. C'est marqué à Kol Bide Shamaim, Rous Mirat Shamaim. D'accord? Mais dans cette dimension-là, c'est pas que dans la religion. Maintenant, on t'a dit, tu vas épouser cette femme. Maintenant, avec cette femme, tu peux faire un shalom bayit, la complicité, l'amour extraordinaire, ou tu peux faire la gueule, t'enfermer dans des nerfs, la schizophrénie et la paranoïa. C'est comme tu veux. C'est la même femme. Hein. C'est ça, à Kol Bide Shamaim, Rous Mirat Shamaim. Pareil. Maintenant, vous deux, vous pouvez vous élever, grandir dans la spiritualité et vivre une relation extraordinaire de religion, ou alors vous étouffez le samedi, vendredi soir, en disant à quelle heure ça sort Shabbat. C'est le même Shabbat. C'est le même. Tu peux vivre la smiout et la pudeur avec un équilibre parfait, bien dans ta peau, bien dans ta tête, ou alors te dire, mais ça m'énerve, encore les collants, les gants, les... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le vécu de la chose. Ouais. L'autre, il lui manque une jambe, et grâce à Dieu, il a fait le tour du monde. Et l'autre, il est en bonne santé. Ouais. Il dit, j'ai pas confiance en moi, ça va mal se passer, je vais tomber dans la rue, je préfère rester à la maison. Il est handicapé de la tête, celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données, elles sont fixées. Mais la relation avec les données, elle n'est pas fixée. C'est là que le libre arbitre, il intervient. Maintenant, la règle commune, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu vas augmenter ta spiritualité, maintenant, toi, tu vas augmenter la spiritualité de ton couple. Tu vas augmenter la spiritualité de ton travail. Ouais. Tu dis, mais pourquoi je travaille? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire des chiffres? Je veux prouver quelque chose? Je veux m'inscrire dans une logique? Je veux avoir le bonheur de ma famille? Pourquoi je travaille? Le jour où tu vas savoir pourquoi tu travailles, peut-être que tu vas commencer à travailler différemment. Mais là, tu dis, non, je vais prouver à mon père, je vais prouver à ma mère, je vais prouver à ma soeur, je vais prouver à la bourse, je vais prouver à la société, je vais prouver, en fin de compte, tu travailles pour les impôts. Ça rapporte toi, c'est bien. Infarctus, et tu as payé les impôts. Si j'ai un mec qui a payé les impôts, c'est dommage. Non, peut-être tu vas réfléchir autrement. À quoi ça sert tout ça? Donc dans tout, c'est pareil. Combien de temps tu prends pour toi? Combien de temps tu prends pour ta famille? Combien de temps tu prends pour ta neshama? Mais ça, tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas la spiritualité. Ça veut dire que la spiritualité, elle te fait le pendant. Elle te rééquilibre. Pourquoi? Parce que la matérialité, c'est comme un aspirateur. Elle t'emmène. C'est celui qui veut s'améliorer dans le business, il ne pourra jamais s'arrêter. Il faut qu'il ait limite de ce qu'il a été couvert avec Tim la Torah. Sinon, jamais il va s'arrêter le business. Le jour, la nuit, 24 heures sur 24, plus la cocaïne, tu peux faire 38 heures sur 24. Ou le contraire. C'est pareil maintenant. Toi, tu sais pourquoi tu t'es marié? Alors, parce qu'il y a de la spiritualité. Si tu ne mets pas de spiritualité, ton corps, il va se terminer avec la matérialité de ton couple. Un jour, les enfants, ils vont partir. On va se retrouver tous les deux comme ça. J'aime pas ta gueule. Alors, à quoi ça sert ce mariage? Mais si entre-temps, on a profité, on a construit, on a développé, on est bien. Eh ben, ils sont partis les enfants. Mais moi, c'est toi que j'attendais, moi. C'était toi le but de ma vie. Moi, j'ai jamais quitté le but de ma vie. Les enfants, ils sont venus. C'est accessoire, mais le but de ma vie, c'est toi. Mais si moi, je me suis servi des enfants pour arriver à supporter le fait que c'est toi, mais un jour, ils vont partir, Yahmar. Qu'est-ce que tu as fait avec cette momie, là? Cette mamie? Oui? Donc, quelqu'un, il est chacham. Oui? Donc, en fin de compte, la liberté, c'est ça. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. La liberté, c'est d'être capable d'utiliser les moyens que Dieu m'a donnés pour m'en libérer. Mais je ne vais pas m'en libérer comme le goy. Il n'y a pas de limite, je fais ce que je veux, je me déchire. Non, je vais m'en libérer comme le juif. Je vais me servir de la spiritualité comme un tremplin vers la matérialité, comme un tremplin de la spiritualité. Parce que maintenant le Shabbat, je le vis différemment. Maintenant l'étude de la Torah, je la vis différemment. Maintenant ma relation avec l'enfant, je la vis différemment. Alors là, je commence à devenir Baal Bechira. Là, je commence à avoir le libre arbitre. Parce que je ne suis plus soumis aux règles de la nature. C'est ça ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu. Il a dit, l'homme, il est dans la nature. Toi, Avraham, t'es stérile, t'auras pas d'enfant. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux, Ve'etna et Beriti, Beni ou Benecha. Je mettrai ton alliance entre moi et toi. Moi, Yudke Vavke, et toi, Avraham. Maintenant, toi, dans Shakai, dans le Shin Dalet Yud, c'est-à-dire dans la partie de Dieu qui gère le Mazal, dans le Mazal, toi, tu n'as pas d'enfant. Maintenant, toi, si tu veux, si tu as une relation privilégiée avec moi, et que cette relation, elle est pure, parce que c'est Italer Lefanaï Veyetamim, alors tu n'es plus soumis au Mazal. C'est que la seule manière d'éviter le libre arbitre, en fin de compte, c'est quoi? Pas d'éviter. D'avoir le libre arbitre, c'est de renoncer aux contingences matérielles pour une relation privilégiée avec le divin. Alors, Tzadik Gozer Agvoku Mekayem. Le Tzadik qui fixe. Maintenant, Reson Irav Yarase. C'est incroyable. Tu arrives à un niveau de supériorité, tu arrives à un niveau de liberté où c'est le bon Dieu qui suit tes choix. C'est incroyable. C'est-à-dire que toi, tu t'es annulé pour suivre la volonté d'Hachem. Maintenant, Hachem, il dit, je vais suivre tes choix. Maintenant, un grand niveau, ça s'appelle les Babas Salé, ça s'appelle les Rabbi Lubavitch. Mais un niveau plus simple, c'est quoi? C'est qu'une femme qui est sincère, Hachem, il écoute sa prière. Un homme qui est sincère, Hachem, il écoute sa prière. Simplement pourquoi? Ça s'appelle Retson Irav Yarase, ça. Ouais? La femme, elle dit, moi je vais amener la Torah dans ma maison. Hachem, il écoute, il se débrouille. Je ne sais pas comment, maintenant, d'un seul coup, monsieur, il suit des cours, les enfants, ils mettent la kippa. Elle décide. Parce qu'elle est pure. Ouais? Son appel, il est pur. Elle sort du mikvé, elle fait une prière à Hachem. Elle dit, voilà pourquoi j'ai été au mikvé pour amener ça dans la maison. Tac, elle fait ça. Ouais. Lui, il prend sa guémara le matin quand il étudie. Il dit, j'étudie pas seulement pour devenir chacham, j'étudie pas seulement pour connaître la Torah, j'étudie pour qu'une partie de cette Torah, elle donne sur mes enfants, sur mes petits-enfants. C'est ça la bracha qu'on fait dans Birkat HaTorah. Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Les ont le libre arbitre. En vérité, tu veux pas trop qu'ils aient le libre arbitre. Tu veux qu'ils aient une prédominance positive au départ, pour qu'ils se lèvent le matin et tac, qu'ils ont envie. Et tu vois des enfants comme ça? Tu vois des enfants, il y en a un, il m'a dit, mon fils, à 3 ans, il a lu l'Aftara. Je lui dis, mais attends, mais comment il savait lire d'ailleurs? Il est monté, il a lu l'Aftara à 3 ans. 3 ans! Il a pris par cœur. Non, il a lu. Et toi, à 15 ans, tu dis, répète, Ahinami, il a oublié. Ahinami, il a oublié. C'est bizarre, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut accepter les critères qu'Hachem a posés, et ensuite, à l'intérieur de ces critères, on peut pousser les limites. Maintenant, comment on peut pousser les limites? En jouant sur le mélange, le dosage spirituel-matériel. Pour que le spirituel, pour que le matériel y devienne une illusion et que le spirituel y devienne la réalité. Donc ma maison, ça va être une illusion. Les murs, les meubles électroménagers, ça va être une illusion. Parce qu'il y aura tellement d'amour, il y aura tellement de réflexion, il y aura tellement de propositions, il y aura tellement d'échanges que tous les gens, quand ils rentreront, ils diront « Ah, c'est ça le couple. Leur maison, c'est eux. » C'est pas la maison, c'est eux. Ouais, c'est ça, Baït. C'est pour ça que la femme, elle s'appelle Baït. Moi, j'aurais dit, non, la femme, il faut l'appeler Isha, pourquoi tu l'appelles Baït? Parce que le vrai Baït, c'est ça. J'ai dit, non, j'ai une maison magnifique et dedans, j'ai ma femme. Ah, ma femme est dedans. Non. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué, quand les anges, ils sont rentrés chez Avraham Avinu, ils ont dit, Aïe Sarah Ishtecha. Ouais. Où elle est Sarah ta femme? Alors, les Chachamim, ils disent, je comprends pas, mais les anges, ils ont que ça à faire de demander où elle est la femme d'Avraham. Alors Rashi dit l'Echabev be'ene ba'ala, pour la rendre chère aux yeux de son mari. Ouais, c'est-à-dire qu'en vérité, la question c'était, c'est toi Avraham qui dois te demander où elle est ma femme. Comme toi, tu dois dire où elle est mon mari. Ça fait 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, à 99 ans, tu cherches ta femme encore, tu la cherches. Tu veux être proche d'elle. C'est ça l'Echabev, ouais. Habiba, ouais. C'est ça la proximité. Donc ça veut dire, si vous avez fait ça, vous avez construit le couple. C'est pareil maintenant. L'enfant, il a 70 ans, mais encore il réfléchit, qu'est-ce qu'il aurait dit mon père, qu'est-ce qu'il aurait fait mon père, c'est tu l'as bien éduqué. Toi-même, tu penses, tu dis mon père, il aurait fait comme ça, il aurait fait comme ça, ça va, l'éducation est passée. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu as quitté la yeshiva il y a 40 ans, et tu dis, le rav, jamais il aurait fait ça, alors je peux pas le faire. Je dis, mais ça fait longtemps. Non, non, non. C'est ancré, c'est pénétré, ça veut dire que c'était du spirituel. Sinon, ça veut dire que c'était des minagim, c'était du folklore, c'était l'ambiance. Tant que tu es dans l'ambiance de la yeshiva, dès que tu es sorti de la yeshiva, hop, le goy. Non, non, toi tu gardes dans ta tête. Tu vois le Rav Hakim, tu vois le Rav, je sais pas qui, les Rabbanim, tu vois le Rav Tzadka, tu vois, il est dans ta tête, il est là. Là tu vas. Tu vas à Hong Kong, et le Rav Obadiah il est à côté de toi. Tu vas à Taipei, et le Rav Shimon il est à côté de toi. Jamais tu les quittes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Sinon c'est du folklore, c'est de l'ambiance. Tu fais ton don, il te fait la bracha, on boit la boha, on boit la truc, aïe 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 aïe. Et après, la Goya elle monte avec toi dans l'hôtel à Hong Kong, tu dis oh, c'est quoi ça? Où est la bracha, et Birkat Abaye, Tetcherwa Baba, et le reçu Serfa? Si la Goya elle rentre avec toi dans la chambre, à quoi ça sert? T'as compris ou non? C'est-à-dire que le Rav, il est là. Ta femme, elle est là. Ton mari, il est là. Ton limoud, il est là. Tes misvot, elles sont là. Dieu, il est là. Tu n'as pas peur. Et ça, tu n'es pas soumis au mazal. T'as compris cette logique ou non? Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé. Malheureusement, si quelqu'un s'endurcit le cœur, il arrête d'étudier la Torah, il se remet pas en cause, il travaille pas sur son couple, alors au fur et à mesure, il sort. Je vois des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, mais Rav, écoutez, moi je comprends pas pourquoi c'est comme ça, et puis je vois des religieux comme ça, et je ressens pas. Je dis, mais combien vous étudiez la Torah? Combien la place de la Torah dans votre vie? Comment vous impliquez? Dans n'importe quel domaine. Tu travailles pas sur ton couple, la route s'installe, tu vas vers le divorce, tu t'occupes pas de tes enfants, un jour tu les comprends plus. Tu suis pas bien ton boulot. Après, tu dis, les employés me volent. Mais toi, tu sais ce qui se passe là-bas? Il dit, non, j'y vais jamais. Ça veut dire qu'en vérité, les personnes, ils baissent leur intervention, ils baissent leur sensibilisation, et après, ils s'étonnent que les choses, elles leur glissent entre les mains. Et bien, quand les choses, elles te glissent entre les mains, ça veut dire ata tahata mazal, et quand les choses, elles sont entre tes mains, ça s'appelle ata bal bechira. C'est juste à toi de choisir. Ça va? À 1 minute de retard, c'est un record mondial. Donc, Razak Baour, je suis très content. Merci à vous. Donc, le prochain cours sera, si Dieu veut, le 16 décembre. Le thème.
Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es.
Voilà. Donc, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc, amenez le menu.
Ce que tu manges, combien tu manges?
Ah.